Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backstreet, bonsoir, incroyable. Bonsoir, très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs pour votre émission préférée qui parle de politique sur Twitch, sur YouTube et en podcast. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va parler de politique pendant les heures qui viennent. On a beaucoup de choses à se dire, des invités prestigieux qui vont venir sur ce plateau discuter avec nous de sujets passionnants. Bonsoir le chat, bonsoir les commentaires sur YouTube, bonsoir les gens sur Twitter, bonsoir Internet. Ça fait plaisir de vous retrouver ce soir. Qu'est-ce que je veux dire ? Ce soir, je suis pas tout seul, je suis avec les Totally Spies. Et ça fait plaisir. Les meilleures chroniqueuses du monde, bonsoir toutes les trois, bonsoir Léa, comment
bonsoir.
Tu vas ?
Fort bien.
Ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau d'Axit.
Eh ben, je suis ravie d'être là.
Ben ouais, nous aussi. Léa, tu es podcasteuse, tu as créé le podcast Popol, où tu parles de politique avec des femmes.
Tout à fait.
Et tu as aussi publié il y a 2 ans, plus de femmes en politique.
Il y a un an tout pile, et la version poche sort dans 2 semaines.
Sérieux ?
Ouais.
Trop bien.
Du coup, ce sera moins cher.
Nickel. Avec nous aussi ce soir, on est avec Sacha, comment tu vas ?
Salut Jean, ça va, super, et toi ?
Bah écoute, ça va très bien, content de te retrouver Sacha. Moi tu aussi. Es journaliste au Journal du Dimanche.
Absolument.
Un journal qui sort le...
mercredi.
Absolument, merci beaucoup. Est-ce que t'étais dans la manif cet après-midi pour couvrir pour
non,
le journal ?
Non, pas du tout, j'ai bossé de chez moi cet après-midi. Le télétravail c'est une chose formidable.
C'est pour rendre compte formidable. De la manif ou...
Non.
D'accord, ok, donc t'as bossé chez toi cet après-midi, ça fait plaisir que tu sois avec nous.
Moi aussi, je suis très contente d'être
Sacha. On est aussi avec Claire, salut Claire.
Salut.
Ça roule ?
Ouais, très bien.
Bah écoute, ça fait plaisir. Claire, tu es militante écologiste, ouais. Tu as été candidate sous l'étiquette de la NUPES aux élections législatives l'année dernière et tu es chercheuse en théorie politique.
Tout à fait.
Ça se passe la thèse ?
Non. ça sera mieux quand ça sera passé, c'est-à-dire dans ouais. 1 ou 2 ans, voilà.
Mais c'est ce qu'on c'est dit long. Toujours, d'accord. Et bah écoute, on a hâte de picoler avec toi pour fêter ta soutenance.
Avec plaisir. Ouais.
Tu nous inviteras ou pas ?
Ah oui, clairement.
Qu'est-ce que je voulais dire ? On a plein de sujets dont on avait envie de discuter ensemble dans les actus de la semaine. Je crois qu'on a un jingle pour les actus de la semaine. C'est parti pour les actus de la semaine. Merci beaucoup. Merci le public. Vous êtes au top. Alors, dans les actus de la semaine... ça va vraiment devenir le fil rouge de Backstreet cette année. Les retraites, on
pas
va
le choix.
pas le choix. Les retraites, c'est reparti la réforme des retraites aujourd'hui. Alors, 2 choses importantes. On en est où ? Journée de mobilisation interprofessionnelle partout en France aujourd'hui. Journée de grève et de manifestation en France et dans beaucoup à Paris et dans beaucoup de villes.
Oh le lapsus.
Ouais.
Pardon, j'étais obligée de relever.
Aligné par la face.
Bam. Non, ça, personne ouais. n'a rien entendu.
En région.
On enchaîne. En province. Quel connard. Non. qu'est-ce que je voulais dire ? Donc c'est à la fois donc une nouvelle journée de mobilisation. Je crois la 4e journée nationale et on est à 48 heures seulement de la fin du marathon législatif. À l'Assemblée nationale. Donc on arrive à la fin aussi du marathon côté Assemblée. Un moment important où la pression continue à monter sur le gouvernement. Elle est très prégnante à l'Assemblée nationale. Peut-être un peu plus faible dans la rue. Comment ça s'est passé aujourd'hui, Claire ?
Alors moi, ce que je retiens, c'est déjà des cortèges où les jeunes sont encore très présents, du moins dans les grandes villes où il y a des universités. Enfin, notamment à Paris, c'était assez visible avec... Un point de rencontre dès 11h à la Sorbonne où il y avait du monde, quoi. Voilà. Je pense aussi la forte présence dans les villes moyennes, voilà, typiquement Albi où il y a eu du monde, c'était un petit peu le centre névralgique pour la journée de mobilisation d'aujourd'hui. Et puis quand même, ça tient. C'est-à-dire que là, ça fait, je ne sais pas à combien de manifs on est, mais il y a toujours du monde dans la rue, quoi. Et dire la force d'une mobilisation, elle ne se compte pas au jour J de aujourd'hui combien il y a eu de personnes. C'est est-ce que ça dure ? Et là, force est de constater que même sur des jeudis, donc des journées où il y a des les gens doivent poser...
un jour de grève.
Ouais. Un jour de grève.
Et c'est les vacances.
C'est les vacances scolaires, par contre.
C'est vrai. Mais du coup...
Sauf à Albi, justement. C'est pour ça qu'ils avaient choisi Albi. Non, c'est vrai.
Voilà, c'est vrai, en tout cas.
Moi, je pense que ça tient et que finalement, la résistance qui se manifeste aussi à l'Assemblée, les deux se nourrissent. Il y a un espèce de parallélisme entre les deux.
T'as parlé d'Albi.
T'as pas l'air convaincu. T'as l'air
si. Non, je réfléchis à haute voix parce qu'on va en parler justement du lien avec l'Assemblée nationale. Ouais. T'as parlé d'Albi. Effectivement, t'as dit centre névralgique. Particularité d'Albi aujourd'hui, c'était là.
Joli petit port de pêche.
Absolument, clairement. D'ailleurs, on embrasse les Albigeois. Albi, c'était la ville où se sont donné rendez-vous les têtes de pont nationales. C'était
ouais, aussi ça la particularité. Ouais.
Pourquoi ils ont fait ça, l'intersyndicale ?
Bah déjà, par rapport au calendrier des vacances, précisément. Ça vous a peut-être échappé, mais c'était une des raisons qui a mobilisé en fait, les syndicats pour aller à Albi, parce que c'était hors période scolaire. Dans la région. Après, il y avait aussi cette volonté de montrer un front uni, de montrer que la contestation est encore présente, qu'elle prend davantage, que les syndicats continuent à faire front commun, ce qui est quand même assez remarquable, parce qu'on aurait pu imaginer peut-être un infléchissement dans une certaine mesure de la CFDT qui aurait pu dire bon, bah, les choses n'avancent pas tout à fait dans le sens qu'on aimerait. Il y a aussi cette volonté de la part de la CGT de pousser les parlementaires à aller jusqu'au débat sur le recul de l'âge légal, donc l'article 7.
On va en parler.
Et ça, c'est quand même assez remarquable. Donc je pense encore cette volonté de montrer que les syndicats marchent main dans la main, que l'intersyndicale tient. Malgré tout, ce qui est assez surprenant. D'ailleurs, on aurait pu peut-être s'attendre à ce que ça foire à un moment donné, mais c'est quand même assez historique et remarquable, je trouve, en tout cas, ce front uni.
Je suis d'accord avec toi, Léa, mais il y a un truc, moi, sur lequel j'ai un doute, justement, sur la poursuite de la mobilisation. Enfin, pas la poursuite, mais sur les suites. C'est qu'on sent qu'il commence à y avoir des disparités sur, justement, la poursuite du mouvement. Il y en a qui vont demander des grèves générales et carrément le blocage complet de la France, alors que d'autres vont dire, non, il faut qu'on continue à se mobiliser, plutôt comme la CFDT, du coup, pour le coup.
Attends, c'était pas Laurent Berger qui avait dit qu'il était chaud pour bloquer le pays le 7 mars ?
Il avait dit ça, mais bon, le fait est que ça aura lieu le 7 mars.
Ouais. Je crois que le point d'achoppement, en tout cas, par rapport aux différentes positions des syndicats, c'est surtout grève reconductible ou non, en fait. Voilà. Et je crois que c'est là-dessus que la CFDT et la CGT, en tout cas, ont du mal à s'accorder.
On aura un blocage le 7 mars. Est-ce que ça sera reconductible le 8, le 9, le 10, le 11, etc., etc. C'est là-dessus que je pense qu'il y a un point il y a un point de divergence entre les syndicats. Et je me demande si les mobilisations ne vont pas se cogner là-dessus un moment, parce que dans l'opinion publique, on sent aussi que les Français demandent justement à ce que ça aille parfois plus loin. Bizarrement.
Mais c'est pas obligé d'être un point d'achoppement, ça peut aussi être différentes stratégies avec une partie du corps syndical qui choisit d'aller plus loin et une autre qui choisit. Enfin, le front uni me paraît assez solide à l'heure actuelle pour qu'en fait ils se mettent d'accord de manière intelligente pour adopter la stratégie qui leur paraisse la meilleure, même si elle n'est pas unie sur l'ensemble des actions. Quoi.
Et puis, par ailleurs, c'est aussi la sociologie des militants de ces différentes centrales syndicales.
Exactement.
La CFDT, c'est plutôt le privé. C'est parfois plus compliqué de faire grève. La CGT, c'est plutôt le public. Encore une fois, ce sont des nuances, mais ça peut aussi dire quelque chose de la facilité qu'on peut avoir à appeler à une grève reconductible.
La culture, en fait, syndicale.
Et puis aussi la culture syndicale,
c'est assez importante. Enfin, si on est à la CFDT la CGT, il y a des raisons aussi sur, la conception de l'engagement syndical qui est radicalement différent.
C'est marrant parce qu'il y a même, pour passer du temps en manif, il y a même un vécu différent de la manif où tu sens que la CGT, elle ne fait pas la manif de la même manière que la CFDT. Enfin, c'est beaucoup le cortège CFDT, il est beaucoup plus calme, ils sont... Enfin, vraiment, il y a une différence.
Il y a moins de soucis.
C'est palpable.
c'est vachement marrant.
Les merguez sont pas les mêmes.
Ouais, il y a moins de soucis.
Il y a moins de soucis. Alors, je suis végétarienne, donc je saurais pas dire, mais.
Non, mais c'est marrant. Non, mais en vrai, il y a quand même un truc. Si on prend un peu de distance sur ce mouvement-là de grève contre la réforme des retraites, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister au grand retour des syndicats comme corps intermédiaire incontournable du mouvement social? Rappelez-vous, sur le plateau de l'excellente émission Backseat pendant les Gilets jaunes, etc., que n'avons-nous pas dit?
C'est une excellente question.
au moment des Gilets jaunes. Oh là là, c'est la désintermédiation, c'est la fin des corps intermédiaires, les syndicats ne parlent plus à personne, regardez, les gens ne se mobilisent pas eux-mêmes sur Facebook, c'est fini, les délégués syndicaux, les grèves votées à main levée le soir dans les AG, etc. Cette grève-là, cette mobilisation massive contre la réforme des retraites qui tient dans le temps, plusieurs millions de mobilisations, c'était sur ce plateau que Philippe Martinez parlait de la plus grande mobilisation depuis 30 ans, etc. Elle est complètement syndicale. Est-ce qu'on est en train de revenir il y a des retrouvailles entre le mouvement social et les corps intermédiaires? Ou est-ce que c'est un feu de paille, ça va redisparaître dans la foulée? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, y a, je pense qu'effectivement, en tout cas au sein de la population, une certaine, on voit dans le corps syndical de la légitimité à mener ce type de combat. Et c'est bien normal, puisque les partenaires sociaux et donc les syndicats au premier chef sont là pour justement gérer les questions sociales avec le gouvernement, etc. Là où il risque d'y avoir un potentiel échec, c'est dans la limite du dialogue avec le gouvernement, puisque le corps intermédiaire, comme tu le dis, fait l'intermédiaire entre le peuple et en l'occurrence l'exécutif et les parlementaires. Dans ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que ce dialogue est totalement rompu, en fait. Pas avec les parlementaires, mais il est rompu avec le gouvernement. Et d'ailleurs,
Elisabeth
Martinez
nous
l'avait dit.
Eu au téléphone la semaine dernière ou en début de semaine, il me semble.
Oui, mais on voit bien que les choses n'avancent pas. Donc en fait, le rôle central des syndicats, qui est pour moi celui de dialoguer avec le gouvernement pour faire avancer justement la cause sociale, risque finalement de se heurter à un mur et à un gouvernement qui n'est pas... Oui, dans cette culture du dialogue social, en fait.
C'est aussi une question de culture du gouvernement, et c'est ce que Philippe Martinez nous avait dit. Peut-être que Laurent Berger viendra nous en parler aussi. Emmanuel Macron n'est pas le premier à décrocher son téléphone.
Ce serait un échec malgré les syndicats, en fait.
Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a une espèce de marée montante de colère et aussi de situation de détresse, de précarité dans le pays, sur laquelle c'est ça qui a fait partir la flamme pour les gilets jaunes. Et ça n'a pas disparu parce qu'il n'y a plus de manif le samedi. Donc je veux dire, en fait, j'ai plutôt l'impression que là, on est sur effectivement une lutte qui est syndicale parce qu'elle a un rapport direct avec le monde du travail, qu'elle a un rapport direct avec une réforme. Donc en fait, la forme syndicale s'empare plus facilement de cette question-là. Mais la vague sur laquelle le mouvement actuel s'appuie, il est complètement connecté avec tout ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Donc moi, je ne mettrais vraiment pas une espèce d'opposition entre les deux. C'est plutôt, j'ai l'impression, il y a une vague, et là, elle reprend sous une forme peut-être structurée par les syndicats. Mais en fait, dans les manifs, il y a plein de gens... alors, c'est très divers, mais les gilets jaunes et ex-gilets jaunes sont là. Ils sont clairement là. Et regardez les villes moyennes. La raison pour laquelle c'est aussi fort dans les petites villes, c'est qu'il y a cette base sociale-là qui n'en peut plus, en fait. Et tout ça s'agrège autour de ce mouvement-là.
Mais pas forcément autour des syndicats, par ailleurs.
Voilà.
Pas forcément, c'est vrai. Du côté de l'Assemblée nationale, maintenant, parce que c'est aussi là que se joue cette réforme, on est en discussion, donc, en séance publique à l'Assemblée nationale. Ça fait depuis le début de la semaine. L'ambiance est particulièrement tendue. Ces débats sont marqués par un niveau de tension assez stratosphérique à l'Assemblée nationale. On va en discuter, je voudrais un peu avoir vos regards là-dessus. On a entendu parler notamment d'exclusion d'un député, M. Porte, pour une photo malheureuse sur Internet où il posait avec un ballon de foot à l'effigie du visage du ministre Olivier Dussopt qui porte cette réforme. Il y a eu avant-hier, un autre député de la NUPES qui a traité le ministre d'assassin avant de présenter ses excuses et d'être sanctionné. D'une manière générale, tous les observateurs s'accordent à dire qu'il y a une ambiance de merde à l'Assemblée, que c'est tendu comme ça l'a rarement été. Qu'est-ce que ça dit du niveau de dialogue qu'on a dans la Chambre parlementaire et dans le paysage politique, Léa ?
Déjà, c'est souvent le bordel à l'Assemblée, il faut quand même le dire. Moi, ce que je remarque, c'est que depuis la nouvelle législature, on a une polarisation qui est plus importante par rapport à 2017. Déjà, le gouvernement n'a plus sa majorité absolue, on est sur une majorité relative, donc il y a moins de députés proches de la majorité. On a quand même près de 90 députés RN, on a beaucoup plus de députés insoumis, ce qu'on n'avait pas au départ. Donc on a cette polarisation qui, à mon avis, accentue le clash, accentue les invectives auxquelles on n'était pas du tout habitués, en fait, avec la précédente législature. Donc il y a déjà ça. Après, on est quand même sur un sujet, sur une réforme qui est très importante. C'est pas importante sur le fond, ça on peut en discuter, bien sûr. Moi, je pense que cette réforme n'a pas lieu d'être sur le fond, mais ça, c'est mon avis personnel. Sur la question politique et stratégie politique, et le message que ça envoie, c'est une réforme qui est la réforme clé d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si Emmanuel Macron n'arrive pas à aboutir avec cette réforme, il n'arrivera plus à rien faire. Donc, il veut aller jusqu'au bout. Donc, il y a effectivement... Cette réaction très forte de la part des oppositions, qui par ailleurs se cherchent, on voit bien, parce que finalement les invectives qui ont pu avoir lieu récemment, enfin cette semaine et la semaine dernière à l'Assemblée nationale, ne fait que renforcer les députés de la majorité autour du président, autour du gouvernement.
Mais d'où la question, je me tourne vers Sacha et vers Claire, est-ce que c'est une stratégie efficace de la part de la NUPES, la part des députés de la NUPES qui appliquent cette stratégie. Ils sont pas tous d'accord.
Tu veux y aller ?
Alors moi je pense pas, mais en plus cette stratégie de la bordélisation, on sait qu'elle vient essentiellement des députés insoumis.
De quelques députés insoumis notamment.
Et le problème, c'est qu'on sent qu'au sein de la NUPES, ça commence à casser les pieds, en fait. Pour parler un peu grossièrement, c'est-à-dire que André Chassaigne, chef de file des communistes, a dit « je suis choqué par l'attitude de certains insoumis ».
Ils n'ont pas la même culture parlementaire non plus, voilà, c'est très intéressant.
Les socialistes se montrent ultra frileux face à cette méthode. Et pendant la campagne présidentielle, les insoumis avaient montré qu'ils étaient capables de gouverner. Et là, avec cette stratégie de bordélisation incessante, bon après, c'est pas les seuls à être pointés du doigt. Hein. Je pense qu'il y a des députés Renaissance qui ne se comportent pas super bien à l'Assemblée non plus. Oh. Donc,
ça, c'est sûr.
Voilà, alors, ne faisons pas de généralité, quoi. Mais
ce serait malhonnête de dire que c'est les filles fout le bordel pendant que les autres, ils sont tous...
Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai. Mais comme c'est ceux qu'on voit le plus et qu'on entend le plus... et qui sont le plus là sur les réseaux sociaux à invectiver les autres députés, on se dit, bah, est-ce que finalement ces gens-là sont capables de gouverner, quoi ?
Claire, vas-y, excuse-moi.
Parce que, en fait, je voudrais prendre le contre-pied.
Ah ouais, vas-y.
Parce que, en fait, la politique, c'est du conflit. Hein. Et ce dont on parle, là, c'est des lois dont les résultats peuvent être d'une violence extrême sur la vie et sur le corps des gens. Donc, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait une intensité dans les débats en ce moment à l'Assemblée, parce que là, même statistiquement, ce qui va se passer si cette loi passe, c'est que des gens vont mourir avant d'atteindre l'âge de la retraite. Donc, je veux dire, moi, je pense qu'il faut être vraiment méfiant avant d'utiliser des mots comme « c'est le bordel », « c'est le bordélisation », etc., etc., parce que, en fait, le conflit, c'est inhérent à la politique. On ne pourra jamais l'éviter. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des différences entre des formes de conflits qui sont peut-être plus intelligentes, plus légitimes que d'autres. Mais je nous inciterais plutôt à avoir une espèce de faire attention quand on a tendance à dire « oh là là, à l'Assemblée, c'est un espèce de chaos, bordel, etc. » Parce que déjà, historiquement, ça a été beaucoup plus, le bordel est beaucoup plus violent que ce que ça est aujourd'hui. Et que aussi, une particularité, c'est qu'on est à un moment où la Macronie, en tant que projet de lisser les différences entre droite et gauche, donc de finalement lisser le débat, lisser le clivage idéologique, ça, c'est en train de se fracasser. Donc, bien sûr qu'on assiste à un retour de la conflictualité et du vrai débat, qui est un débat de fond sur aussi le projet de société. Donc,
je suis content que tu dises ça parce que ça fait des années que je me bats pour essayer de défendre le parlementarisme dans ce qu'il a aussi parfois de théâtral en disant que ça, c'est porteur de sens. Pas des gamins dans une cour de récré, c'est plus que ça, c'est des militants avec tout ce que ça a de beau derrière et des motifs. Tu sais qui est d'accord avec nous là-dessus ? Jean-Louis Debré, figure-toi.
Exactement.
Ils l'ont sorti du formol. Ouais, ouais, d'accord. Jean-Louis Debré
dans Libé, rien que
qui a déclaré dans Libé, il a donné une interview et en gros, lui, ce qu'il dit, c'est ça va les chochottes. Là, lui, il a été président de l'Assemblée nationale à une époque où ça gueulait autrement plus fort. Oui. Il en a connu, lui, des communistes enragés, etc. Et en fait, il dit exactement pareil. Il dit, mais c'est bon, là, ça va, c'est le rôle de l'Assemblée, que ça gueule, que ce soit dur, que le gouvernement s'en prenne plein la gueule. Non, lui, il dit que la nouveauté, c'est que des gens, en tout cas du côté du gouvernement, qui visiblement, il critique beaucoup, rendre intolérable des trucs qui ont toujours été tolérés, parce que ça fait partie du jeu.
Alors pour moi, c'est vraiment...
Salut Jean-Louis, on t'embrasse. C'est un plaisir.
Ce qui pour moi est vraiment intolérable et particulièrement dangereux, parce qu'on parle beaucoup effectivement de... Ils emploient des termes comme la haine. Enfin bon, c'est pas parce que tu vas dire à un ministre que c'est un assassin que t'appelles à la haine. Faut quand même y aller. Enfin, je trouve qu'il faut y aller très fort. Ça reste symbolique, c'est clair. Moi, ce qui m'inquiète particulièrement, c'est d'entendre des discours xénophobes, sexistes, racistes, homophobes, transphobes à l'Assemblée nationale. Parce que ça a des répercussions réelles dans la société.
Et ça, c'est plus nouveau, ça, pour le coup.
Et ça, c'est plus nouveau. Ouais. Et c'est plus toléré au sein de l'hémicycle, contrairement à ces invectives par rapport à des personnes très ciblées qui sont généralement des personnes de la majorité ou du gouvernement. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, les crimes de haine en France sont en hausse. Les crimes de haine en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre sont en hausse drastique. À cause de quoi ? À cause d'un discours qui est finalement accepté. C'est-à-dire qu'on peut, comme l'a fait Astrid Panosyan récemment, soutenir une association transphobe pendant des QAG, personne ne va rien dire. En revanche, s'il y en a un qui dit « bon bah vous êtes un assassin », et là tout de suite, il est sanctionné. Et c'est très très grave ce qui se passe, parce que finalement on vient légitimer à travers le discours politique, des attaques qui ont des répercussions sur la vie des gens. Et ça, moi, c'est ce qui m'inquiète particulièrement. Et la haine, elle est là. Et c'est ça qu'il faut combattre, à mon avis, au quotidien, au sein de l'Assemblée nationale.
Sacha ?
Oh bah non, je pense que Léa a dit pas mal de choses quand même. Mais après, je pense que personne n'a dit ici que c'était grave de s'invectiver à l'Assemblée nationale.
Non.
C'est ce que dit le gouvernement. C'est l'ancien animateur de cette émission qui a provoqué l'assistance avec une question provoque pour faire.
Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est la politique, que c'est le beau jeu, qu'il y a eu des débats pendant la légalisation de l'IVG, l'abolition de la peine de mort, etc. etc. et que c'est aussi une tradition française. Et que sans ça, on s'emmerderait
c'est
un peu, en vrai.
De la politique. C'est même une conception de la politique.
Soyons assez honnêtes.
On arrive déjà à la fin de cet échange. Je voulais aussi avoir votre analyse sur, au miroir de ça. Tu as commencé à en parler sur la haine, mais la stratégie du Rassemblement National. Parce qu'elle est là aussi la différence. Demain soir aura lieu un débat sur la motion de censure déposée par Marine Le Pen contre le gouvernement. Le Rassemblement National qui a décidé de déposer peu d'amendements dans le cadre de ce combat sur la réforme des retraites, qui s'oppose au projet du gouvernement, mais qui ne s'y oppose pas de manière aussi bruyante et aussi vivace que certains députés de la NUPES. Qu'est-ce que ça dit de Marine Le Pen ? Est-ce que c'est encore une énième illustration de sa stratégie de dédiabolisation et de respectabilité ? Est-ce que ça a vocation à marcher ou pas ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Claire.
Moi, je trouve que c'est typique de tout ce qu'on vient de se dire là, c'est-à-dire que là, vous avez une stratégie de lissage, on enrobe quelque chose qui est un projet de société raciste et violent. Et voilà, donc en fait, il est là le risque aussi dans le jeu qu'elle joue, c'est-à-dire d'avoir une technique de légitimation qui voile complètement l'aspect extrêmement brutal. Du projet de société qui porte et qui a des répercussions qui peut-être passent pas par là les élus et les cadres RN, mais en fait les véhicules des idées d'extrême droite sur les réseaux, etc., sont extrêmement puissants, de plus en plus puissants, et ça commence à avoir des incidences réelles dans la vie de notre société, quoi. Donc encore une fois, c'est là où aussi ça devient important de bien caractériser ce qui est violent dans une posture politique.
Mais le problème, c'est que le discours du lissage, il commence à devenir limite un peu mainstream. C'est-à-dire qu'il commence à être balancé un peu partout comme ça. Je voyais hier une députée RN dire « on est devenu l'opposition respectable ».
Alors qu'on est et le pire, c'est qu'elle a raison. En fait, c'est le drame du truc, c'est ce que tu dénonces.
Mais qu'est-ce que ça veut dire respectable ? Du coup, ça veut dire qu'il ne gueule pas partout à l'Assemblée nationale. Mais c'est pas ça, être respectable. Être respectable, c'est ne pas avoir un discours homophobe, xénophobe, ne pas porter un projet de société violent, comme le disait Claire. C'est ça, être respectable.
C'est-à-dire qu'être respectable, c'est... C'est ce qu'on a déjà dénoncé plusieurs fois, en tout cas que moi, j'ai souvent dénoncé. Pardon pour mon manque de neutralité là-dessus, mais c'est que le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie et la misogynie sont devenus acceptables dans le débat, que des discours de rupture avec un système apollo-capitaliste, on veut, sont devenus intolérables.
Absolument.
Je ne veux pas être un vieux con, mais j'ai grandi à une époque où j'en ai entendu des communistes à l'Assemblée nous expliquer qu'il fallait rompre avec le capitalisme et tout. Moi, ça m'a toujours paru être un truc quasi folklorique dans le paysage politique français.
Et c'est finalement...
c'est bon, quoi.
C'est finalement là que le masque tombe, en fait.
Et c'est là que le masque tombe, parce que c'est ce que tu disais sur...
En réalité, le RN est là pour maintenir l'ordre établi et ne pas changer radicalement les choses, mais juste servir la classe dominante.
On va encore se faire reprocher de ne pas être assez neutre.
J'aurais dû dire bourgeois pour Usul.
Usul, on t'embrasse. Désolé pour notre intolérance envers les racistes. On est désolé. mais pas tant que ça, en fait. Claire, un mot de la fin ?
Ouais, en fait, là-dessus, et je voulais juste rajouter qu'en fait, la manière de mener ou de ne pas mener le débat de la Macronie ne nous aide pas du tout, parce que là, par exemple, il y a eu la même sanction pour le député Thomas Porte, par exemple, pour cette photo, et pour le député RN qui avait proféré une phrase extrêmement raciste. Et donc, c'est là où on voit aussi une espèce d'indistinction de « Ah là, vous êtes des pas respectables et on vous met tous dans un espèce de même panier indistinct. »
Mais je suis d'accord.
C'est super dangereux, quoi.
Bien sûr,
vraiment,
c'est
très dangereux.
Je suis qui avait repris un député qui avait traité de raciste l'extrême droite. Ouais. Et elle lui avait donné une sanction. Alors, tous les républicains, même ceux de la. Tous ceux qui étaient du côté de la République qui se sont levés et qui ont dit « Ah non, par contre, eux, ils ont toujours été racistes. On va pas commencer à nous empêcher de le dire. Ça va pas commencer comme ça. » Et du coup, ils ont mis les choses au calme assez rapidement. Ouais. Merci les filles pour cet échange sur le sujet de l'actu qui était la réforme des retraites. On continue à en parler dans les prochaines émissions de Backseat. Bien entendu, sans plus tarder, on va retrouver une chronique que vous attendez toutes et tous et qui va introduire la séquence suivante. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Incroyable. Nous a rejoint sur ce plateau Vincent Manilève, chroniqueur sur Backseat, qui va nous présenter, comme chaque semaine, son PowerPoint.
Vous allez bien ?
Bah ouais, toi ?
Oui.
Oui,
oui, oui. Non, si. En vrai, ça va bien parce que le week-end dernier, je suis peut-être comme certains d'entre vous, rentré voir ma famille. Enfin, vous n'avez pas vu ma famille, mais vous m'avez compris. Mais je suis rentré, voilà, je suis allé voir ma famille dans un des plus beaux coin de France, hein, globalement, je pense que j'ai pas besoin. Enfin,
c'est où?
Cergy, dans le Val.
Ah, splendide. Ah,
bien joli sûr. Petit port de pêche aussi.
Cergy. Ouais.
Bah oui. Ah oui. Là, je sais pas. Enfin voilà. Là, c'est quelques photos que j'ai prises en allant à la base de loisirs, pour ceux qui connaissent peut-être, évidemment.
C'est vraiment toi qui les as prises ce week-end, ces photos?
Bien sûr. Je te jure que c'est ce week-end. Et il y a deux petites photos de petits pépères que j'ai croisés. Parce que voilà, je trouve que montrer des photos de petits pépères, c'est toujours agréable. Voilà.
Aussi, tu ça, fais comme notre ministre des Armées, en fait.
Je m'attendais pas à ce qu'on me compare au ministre des Armées un jour, mais je le prends mal.
Comme tu veux, François.
Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup Cergy, hein, parce que c'est une ville quand même qui est étrange, mais je l'aime quand même beaucoup. Et c'est pour ça que ces derniers jours, sur Twitter, je me suis senti attaqué quand je suis tombé sur ce tweet. Aïe. Voilà.
Ah!
J'étais chaque point.
La France moche.
Parce que depuis quelques semaines maintenant, il y a un compte Twitter qui a engrangé beaucoup d'abonnés, hein, plus de 68 000, en même pas un mois, et sur un sujet très très spécifique, la France moche. Alors c'est un compte qui compile avec une certaine ironie les constructions un peu jugées hideuses à travers le pays. C'est une expression qui est quand même assez connue, il y a un hashtag qui est consacré même, hein, voilà, depuis de longues années, le hashtag France moche. Et en tant que Cergissois, bah, fallait que je comprenne, quoi. Je me suis posé la question, pourquoi la France moche, tout simplement. Donc là, par exemple, vous voyez, donc là, j'ai pris quelques exemples. Donc il y a la caserne de pompiers de Limoges, les galeries Lafayette à Longwy, merci beaucoup. Et puis il y a un quartier aussi de Villeneuve-d'Ascq, voilà, qui est épinglé par ce compte.
Non, mais c'est vrai que c'est chum. Enfin,
mais c'est assez subjectif, moi, je trouve.
Voilà, non, mais on va en parler.
On va en parler.
C'est tout le débat.
J'aimais bien la typo des cinémas à Cergy.
Oui, mais bien sûr, évidemment. Et en fait, c'est vrai que la France moche, elle peut surgir un peu à chaque coin de rue, hein, mais plutôt dans les grands ensembles et en banlieue, plutôt que dans les centres un peu historiques des villes, hein, qu'on connaît.
Le kiwi est génial.
C'est un compte qui se nourrit aussi beaucoup de la participation de ses abonnés, hein. L'auteur du compte en a reçu une centaine par jour, hein, quand il prenait beaucoup d'abonnés, et depuis c'est plus d'une vingtaine de participations de manière quotidienne. Et je trouve ça logique, parce que quand on s'attaque à l'ancrage territorial et donc émotionnel d'un Français, bah, y a forcément une envie de réagir, soit pour abonder dans le sens de la personne, soit pour protester. C'est pour ça que moi, là, depuis, j'ai un peu le poing serré, hein, à propos de Cergy. Parce que c'est vrai que 68 000 abonnés, c'est énorme quand même sur un sujet comme ça. Alors que dans le même temps, c'est 68 000 abonnés de plus que mon compte Cergy BG du 9-5, qui est quand même incontournable et qui existe.
Que, hein, t'as vraiment créé pour ce slide.
J'ai créé juste pour la blague. Le compte existe. Je vous...
En février 2023.
On ne veut pas aller s'abonner. T'as quand même 2600 abonnements.
Non, ça, j'ai un peu fait. C'était pour dramatiser sur le fait que personne s'était abonné et tout, mais le compte existe.
Non, la blague est bonne, la blague est bonne.
Voilà. Non, mais c'est pour montrer l'investissement que j'ai un petit peu là-dedans.
Les follow.
Donc, en fait, la France moche a eu droit à pas mal de segments, hein, dans les médias, ouais, globalement, et notamment dans la presse locale aussi. À la télé, et les community managers de comptes officiels de ville ont aussi pas mal réagi. C'est un vrai succès en termes de viralité. Et pourtant, ce compte a aussi provoqué un certain nombre de critiques, car l'expression en fait, France moche, qui est pas mal établie depuis des années maintenant dans les médias, il y a même un prix qui existe, etc., avec évidemment un contexte différent, hein, c'est pas pour juger les villes françaises. Ça peut être perçu des fois comme une forme de moquerie à l'encontre de la vie de banlieue, la vie périurbaine, celle des ronds-points, des HLM, des centres commerciaux en tôle et en béton, et en opposition forcément aux villes historiques, à l'esthétique et au charme qui serait forcément supérieur. Il a aussi été reproché à ce compte et à la France moche, au hashtag France moche en général, une forme de discours un peu réac, on reproche un peu de mettre en avant une vision de la France ancrée dans des privilèges des fois un peu bourgeois et blancs aussi. C'est des critiques qui ont été émises. Et il faut bien reconnaître que le compte France moche, avec son ironie et ses publications assez visuelles et sans trop de contexte ou explication, eh ben, ça interroge. Et donc, j'ai discuté avec son créateur, grâce à Laurent de l'équipe, hein, que je salue, que je remercie. Alors, l'auteur du conte, il préfère rester anonyme, mais il explique qu'il a grandi dans un village et qu'il vit désormais dans les Hauts-de-France, dans un lieu qui, selon lui, pourrait apparaître sur son conte. Sans donner son métier, il explique aussi appartenir à la catégorie socio-professionnelle des ouvriers et qu'il est fan d'histoire, d'architecture. Il n'est pas fan du brutalisme, hein, je pense que vous l'avez compris. Mais au-delà de ça, je me suis aussi demandé, et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qu'il cherche à montrer avec ce conte-là ? Et donc l'auteur m'a répondu en disant que bah, forcément, au-delà de la vanne et de l'ironie qu'il y a dans ses tweets, il y a toujours une dimension politique. Politiquement d'ailleurs, il précise que bah, il se situe, il n'aime pas les extrêmes en politique, que ça soit de gauche ou de droite, et il parle plutôt aussi de la dimension architecturale et urbanistique, et un peu de ce qu'on va laisser aux Français, et de ce droit à vivre dans des environnements qui nous plaisent et où on se sent bien. Et alors là, forcément, je lui ai demandé, est-ce que c'était mieux avant alors ? Forcément, c'est la question qui vient tout de suite. Et il dit qu'il y a forcément chez lui une forme de nostalgie un petit peu, et il voit bien que ça revient un peu dans l'air du temps, ce côté un peu vieille France aussi, pour certaines personnes. Et il ne prône pas évidemment un retour à l'éclairage, à la bougie, et il nie pas non plus la modernité et les apports de la modernité. Mais c'est vrai que selon lui, il y a des bonnes choses vers lesquelles on pourrait retourner. Et en fin de discussion, il m'a expliqué qu'il songeait déjà à cesser d'alimenter le conte, parce que ça l'a un petit peu dépassé, c'est vrai qu'il y a eu un emballement. Et surtout, il a tenu à ajouter et à préciser que bah, même si sa démarche elle est un peu maladroite, parce que c'est vrai que les gens lui ont dit qu'il n'a pas de ligne éditoriale précise, il parle de plein de choses différentes, et ben, lui, il ne regrette pas, parce qu'au final, ça a permis de relancer la discussion sur cette France moche, sur ces grands ensembles, etc. Et comment on les considère. Donc lui, bah, pour le coup, il trouve ça plutôt bien. Et c'est bien parce que vous allez en parler maintenant, et notamment pour réhabiliter Sergi, hein, je crois, c'est ça ?
Oui, c'est le projet éditorial de Backstreet de réhabiliter Sergi, évidemment. Merci beaucoup. Vincent, pour cette chronique, c'était le PowerPoint de Vincent.
Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup du coup pour cette chronique sur ce conte. Donc La France moche, c'était le sujet qu'on voulait aborder cette semaine, et on a un invité qui va nous rejoindre. C'est parti pour l'invité actu. Et donc, nous a rejoint sur ce plateau Jean-Laurent Castelli. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Laurent, tu es journaliste, tu es essayiste, tu es le co-auteur du livre « La France sous nos yeux » que tu as publié avec Jérôme Fouquet l'an dernier, qui a été prix du livre d'économie 2021. Et c'est un livre dans lequel vous décrivez, entre autres, les mutations de cette France-là, d'une France des ronds-points, comme on dit vulgairement. Tu décrirais ça comment ?
Oui, parce que le sous-titre du livre, donc le livre s'intitule « La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveau mode de vie ». Et c'est vrai que la notion de paysage qu'on a préférée à celle de territoire, qui est un petit peu trop techno, même si elle est quand même assez à la mode, elle décrit justement cette ambition de parler du décor, du cadre dans lequel on vit. Et c'est ce qu'on appelle les paysages. Et je dirais qu'il y a aujourd'hui un paysage de la France moche, de la France contemporaine, qui est constitué effectivement des fameux ronds-points. On y reviendra, parce que le rond-point, c'est un peu le carbone 14 de la France moche. Et on sait qu'on en a produit dans les années 80 à 2000. C'est vraiment le cœur de cet urbanisme-là. Pourquoi les ronds-points sont importants ? Parce que ce sont eux qui connectent en fait les nouveaux quartiers des villes. Vincent a parlé de Cergy. Et depuis Cergy, il y a eu tout un... Depuis ces villes nouvelles, qui étaient quand même assez bien, enfin, elles étaient conçues de manière assez, cadrée par l'État. On avait décidé qu'il y aurait des centres alternatifs à Paris, notamment tout autour. Il y avait Cergy, il y avait Melun. Melun, ouais. Voilà, il y en avait quelques-unes comme ça.
Surtout, c'est un zonage territorial autour des zones d'activité, zones commerciales.
Ouais, voilà, c'est ça.
Il faudrait que tu te rapproches le micro de ta bouche, s'il te plaît.
Ou l'inverse. Ah, ouais, c'est mieux comme ça.
Vas-y, vas-y, nickel.
Et donc il y a cette France moche qui est une France plutôt de la planification, on va dire, des années d'après-guerre. Et puis il y a la France moche de Télérama, dont on a vu la couverture tout à l'heure. C'est un peu ce magazine qui a lancé toutes les hostilités contre la France moche, qui a inventé l'expression dans ce dossier de une qui date d'une dizaine d'années, qui est paru, je crois, en 2010 ou 2011. Et il faut savoir que c'est aujourd'hui encore, je crois, un des articles les plus lus de l'histoire du site de Télérama.
Ah, c'est intéressant ça.
Oui, donc quand j'ai vu, parce que moi, dès qu'il y a quelque chose sur la France moche, les gens m'envoient des messages directement. Ping. Donc j'étais au courant de l'existence de ce compte Twitter en deux secondes, parce que cinq personnes m'avaient envoyé un DM.
Comment tu le vis ?
Les lecteurs de Télérama, c'est... Ouais.
Voilà, et donc il y a eu, en fait, moi ça m'a pas du tout surpris. Je me suis dit quoi, 67 000 followers, c'est tout. Je m'attendais à beaucoup plus, parce qu'on sait que c'est un sujet, voilà, très très tendu et très passionnel.
Les filles, est-ce que vous le connaissiez, vous, ce compte Twitter?
Pas du tout. Mais non, moi du coup j'ai une question. J'ai une question pour toi, pour vous. Je sais pas si on peut se tutoyer peut-être.
Ah oui.
Okay. Oui.
Comment t'expliques justement le succès, bon, relatif du coup, 67 000 followers. Tu dis que c'est pas beaucoup, mais il en a pris 50 000 en quelques jours, je crois, un truc comme ça. Et surtout les réactions épidermiques autour, qu'elles soient positives ou négative, enfin, on sent que c'est un sujet qui tient à cœur quand même.
Ouais, ben c'est ce que je disais, c'est un sujet très passionnel parce que en fait en France les gens sont très attachés, bon bah alors à la gastronomie et puis à leur patrimoine architectural historique et c'est vrai que alors ce qui est vachement intéressant, on a vu la couve de Télérama et celle du Figaro Magazine plus récente qui en a remis une couche sur la France moche. Donc en fait, il y a une manière de droite et une manière de gauche de critiquer la France moche. En fait, si je résume...
J'allais te demander, c'est de droite ou de gauche de la France moche? Donc c'est ta manière à toi d'y répondre. Vas-y, dis-moi.
La France moche, on ne sait pas, mais en tout cas, ne pas aimer la France moche, c'est de droite et de gauche.
Alors dis-nous, c'est quoi la différence entre les deux manières de ne pas aimer la France moche?
Il y a deux manières de ne pas aimer la France moche. Il y a la manière, donc Télérama, qui était plutôt... en fait, c'est une vieille tradition marxiste qui consiste à dire, de géographie marxiste qui consiste à dire, en fait, la mocheté... Les paysages moches, c'est l'architecture, on pourrait dire du libéralisme, quoi, du capitalisme. Voilà. C'est les, parce que c'est les centres commerciaux, les zones logistiques,
le consumérisme. Voilà,
exactement. Ouais, okay. C'est le rêve américain projeté sur la carte de France. Mm-hmm. C'est ça qui a rendu la France moche. Et puis à droite, ça va plutôt être l'État et Anne Hidalgo, quoi. En gros, voilà. pays. Quoi.
Ça va être ça cache Paris.
C'est ça cache Paris. C'est ça, c'est la manière de droite de critiquer la mocheté. Ok,
qui va plutôt être attaché au patrimoine plus ancien, à la préservation du patrimoine historique parisien ou autre, ou au clocher par exemple, voilà, des villages français. Et puis à gauche, ça va plutôt être, je pense, une critique d'un certain urbanisme, en fait, plutôt du privé, en fait, qui a été laissé, quand on a laissé libre cours quelque part aux promoteurs et puis au marché, tout simplement, pour construire cette France. En fait, il y a un peu, dans la France moche, il y a trois grandes dimensions. Il y a le logement, donc c'est plutôt les HLM, les grands ensembles, et puis après les lotissements pavillonnaires. Il y a tout ce qui est consommation, donc là c'est plutôt parcs de loisirs, centres commerciaux, zones d'activité commerciale, etc. Et puis il y a les bureaux, les zones d'activité tertiaire, et ce qui permet d'aller des uns aux autres, c'est-à-dire les routes, les rocades, les ronds-points, voilà, tout ce qui fait un peu la connexion entre les France moches, quoi.
Les filles, est-ce que ça vous a... Est-ce que voir les photos là qu'on a vues tout à l'heure, est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs de là où vous venez, ou alors des trucs de... Parce que j'ai l'impression que ça parle à tous les Français, ces photos de la France moche. On les connaît tous, ces ronds-points, ces zones commerciales décrépies, t'as même des noms d'enseignes qui peuvent venir très rapidement, la foire fouille, etc. Tu vois très bien à quoi ça ressemble, et l'imaginaire auquel ça renvoie, y compris l'imaginaire esthétique. Je m'étais pas trop posé la question avant de savoir si c'était beau ou moche, mais du coup ça me fait marrer ce compte. Claire ?
Oui, bah moi j'ai grandi dans le 91, hein, Morsang-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, où il y a le premier carrefour en 1962, la Croix-Blanche, tout ça, avec des voitures de partout. Enfin, donc oui.
D'accord, ok.
Je vois très bien. Je peux poser une question, du coup.
Bien sûr,
je
pense que la question, une.
En fait, en t'écoutant, je me disais oui, il y a ça cache Paris, quoi, la manière de droite de désigner la mocheté. Et puis, oui, il y a la France moche qui est critiquée du côté gauche. Et je me disais aussi, en regardant notamment les photos de la France moche, est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle manière de caractériser la France moche venant de la gauche, pour parler des lieux où, en fait... il y a un délaissement de l'État. C'est pas juste les centres commerciaux, en fait. Là, on a vu plein de bâtiments qui sont des services publics délabrés. Donc, il y a aussi ce truc de... En fait, à un moment, l'État a été très volontariste dans sa manière de construire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu analyses et que tu vois?
Moi, je vais pas être d'accord avec toi là-dessus. Okay. Mais non, enfin, moi, ça m'intéresse. Mais c'est aussi une discussion que je pense qui peut être intéressante là-dessus, justement, sur ce côté service public, parce que je suis le premier. C'est un peu ce qu'on appelle les architectures de la CAF ou du bâtiment de la Sécu. Mm-hmm. C'est le truc moche au possible. Par essence, c'est dégueulasse un bâtiment de la Sécu, vraiment. Mais il se trouve que comme j'ai bossé par le passé dans des collectivités locales, j'ai aussi compris pourquoi toute une architecture d'une certaine époque était aussi dégueulasse. C'est parce que ça a été construit dans des moments où il y a eu un très très fort investissement de l'État pour la création justement de ces services publics, les écoles, les bâtiments sportifs, les bâtiments culturels, et ça donnait du coup ces MJC, ces centres culturels et tout, avec des matériaux pas du tout nobles et tout, mais aussi parce que c'était pas cher et parce que ça répondait du coup à une volonté politique très forte. Et donc c'est rétrospectivement, avec ces connaissances que j'ai depuis, que moi je trouve qu'il y a du panache et de la noblesse à avoir, ces espèces de services publics décrépits au possible, parce qu'on n'a pas le budget pour les nettoyer, faire les ravalements de passage chaque année, parce qu'on préfère mettre le budget dans autre chose, dans les animateurs sportifs et culturels et tout.
C'est un choix politique de ne pas rénover les sapeurs-pompiers,
il y a deux questions. C'est-à-dire qu'il y a celle de des goûts. Hein, et c'est vrai qu'en matière architecturale, les goûts, typiquement le brutalisme dont Vincent a montré des exemples assez emblématiques, moi j'aime beaucoup, c'est revenu très fortement à la mode ces dernières années. Il y a beaucoup de clips, par exemple, de musique avec des bâtiments brutalistes. Il y a le centre de la danse à Pantin qui est souvent photographié ou filmé. Donc il y a en Angleterre aussi, il y a tout un patrimoine brutaliste qui fait l'objet justement de comptes Twitter, Instagram et tout qui reviennent dessus. Donc il y a des fans d'architecture brutaliste. Après voilà, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que du brutalisme dégradé, mal entretenu, c'est très très moche. Mais ouais. si c'est bien filmé dans les bonnes conditions, ça peut être pas mal. Après, il y a aussi la question de la dégradation de tout cet environnement périphérique. C'est ce qu'on a vu un peu avec la crise des gilets jaunes. C'est que finalement, pourquoi les gens se mettaient autour des ronds-points ou proche des péages ? Parce que c'était les lieux de vie assez éloignés des métropoles ou des villes moyennes. Et c'était des endroits dans lesquels finalement la crise, on pourrait dire une crise spatiale, rencontrait une crise sociale. Voilà, il y avait des gens qui se sentaient un peu relégués parce qu'ils étaient éloignés des centres. Et aussi dans des environnements qui sont pas objectivement moches, mais qui ressemblent pas à l'idée qu'on se fait du patrimoine français emblématique. Et dans le livre avec Jérôme Fourquet, puisque tu en parlais, on a réédité une édition de poche en septembre dernier. Et on a fait une postface post-électorale, parce qu'on a pris en compte la séquence présidentielle et législative. Et on s'est amusé à calculer le vote pour Marine Le Pen et Macron à mesure qu'on s'éloigne des littoraux, en fait. Et on s'est rendu compte sur le littoral atlantique que ça marchait très très bien, dans le sens où
plus
de même...
Plus tu t'éloignes de la mer, plus ça devine, vote Le Pen.
Exactement. Voilà. De même que plus on s'éloigne des métropoles, plus ça vote Le Pen, plus on s'éloigne des littoraux. Alors ça marche pas forcément sur la Méditerranée, parce qu'il y a un vote FN ancien assez ancré, mais par contre sur le littoral atlantique, ça marche assez bien. Pourquoi ? Parce que les endroits les plus désirables, les plus attractifs sur le plan immobilier, les plus chers, c'est aussi les endroits les plus beaux. On a tous un peu envie d'habiter ou d'avoir une résidence secondaire. Et donc, ça pour dire aussi qu'il y a une incidence politique. Il y a une France qui est plutôt désirable, qui est plutôt belle, et une qui est plus dans l'ombre. Voilà.
C'est que du coup, tu as aussi une division en classe sociale par rapport au caractère esthétique de la zone dans laquelle tu as les moyens d'habiter. Et que du coup, ça rend... Est-ce qu'il y a pas une forme... Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme de mépris de classe dans le fait de juger moche une France quand on est un lecteur du... Enfin, c'est facile quand t'es lecteur abonné à Télérama dans ton beau centre-ville dégueulasse, sur rond-point, t'habites pas à côté.
On refait 10 ans après exactement le débat qu'il y a eu quand la couve de Télérama est parue. Il y a eu vraiment le débat dans ces termes, c'est-à-dire qu'on disait, oh là là, mais... Enfin, il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord pour dire qu'objectivement, c'est très moche. C'est dans l'Essonne, d'ailleurs, cette photo. Et puis, une partie de la critique, d'ailleurs, aussi chez les intellos, a dit, non, mais c'est un jugement de classe. C'est un truc élitiste de centre-ville de dire, oh là là, vous habitez dans des environnements dégueulasses.
La question de la définition de la France moche, tu peux nous en donner une ? Parce que c'est archi subjectif, en fait, et c'est une question d'époque. Parce que là, par exemple, sur le compte Twitter qu'on voyait tout à l'heure, et Vincent a montré quelques exemples, il y a notamment ce complexe immobilier à Créteil, qui est une forme de chou,
qui était
considéré à l'époque de sa création comme une prouesse architecturale et comme quelque chose de vraiment beau, et qui aujourd'hui est considéré comme étant moche. Enfin, c'est quand même assez... c'est aussi une question d'époque, peut-être, quelle est la définition de la France moche ?
Bah, alors effectivement, on fait un peu de l'archéologie de la France moche en ce moment, c'est-à-dire qu'en fait on juge avec nos yeux contemporains une architecture qui dans le passé a été l'architecture en fait moderniste ou fonctionnaliste, parfois on l'appelle comme ça, qui était une architecture très liée aux utopies politiques de l'époque.
Ah, bien sûr.
Le Corbusier, etc. Voilà, on voulait loger les gens autrement avec de la lumière, de l'espace. Et tout.
Typiquement c'est une piscine tournesol et ça c'était un programme d'équipement à pas cher pour les mairies pour avoir un vrai programme de natation, notamment pour les populations les plus pauvres. Donc moi je trouve ça chouette, une piscine tournesol.
Alors ça je dirais, moi j'aime bien, mais ça c'est la France moche un peu à la manière ex-URSS. Voilà, c'est le côté planificateur de la France.
Ah oui, parce qu'en plus c'était standardisé, c'est ignoble. Ouais, ouais. C'était le même modèle de piscine partout en France.
C'est un peu comme les villes nouvelles en fait. Voilà, c'est la manière plutôt planificatrice. Et puis il y a cette France moche, encore une fois, plutôt liée au libéralisme aux années 80-2000, qui est la France américanisée, les grands centres commerciaux, la voiture individuelle, etc.
Ok, je vois.
Et nous, on a un mélange
de
définition,
des deux. En fait.
Je dirais qu'il y a plusieurs France moches, voilà.
Claire, tu avais une question aussi sur ce que ça dit des mutations, des modes d'habitat vis-à-vis du changement climatique et de la volonté de retrouver... C'est quand on préparait l'émission, tu m'avais parlé de ça.
Ouais. En fait, pour moi aussi, le fait qu'on est dans un espèce de moment de bascule où, en fait, le modèle... idéal, pavillon, bagnole est en train de mourir.
Et en train de disparaître, oui.
Parce qu'on ne peut plus être dans une civilisation où la voiture prend cette place-là. Du coup, on a des politiques, les ZFE, tout ça, qui en fait rendent compliqué l'évolution du prix de l'énergie, qui rendent compliqué le fait d'avoir une voiture, ce qui fait que la France moche, elle est ressentie comme moche aussi parce qu'elle est subie, en fait, quelque part. Et est-ce que, du coup, dans ton travail... tu perçois ça aussi d'aspiration à un autre mode d'habitat relié à la question de l'environnement, du climat et de globalement, cette nécessité de sortir de la civilisation consumériste, des grands centres commerciaux, c'est présent. Et est-ce que c'est présent dans toutes les classes sociales aussi et de quelle manière ?
Alors, très bonne question. Il y a une loi qui est entrée en vigueur en 2021 qui s'appelle la loi climat et résilience, dans laquelle il y a en fait, c'est un peu la loi cadre de toute la manière dont la France doit mettre en action la transition écologique. Donc, il y a plein de choses sur, je sais pas, les emballages plastiques, mais il y a aussi beaucoup de mesures sur les territoires, l'aménagement du territoire, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut plus faire. Dans ce qu'on peut plus faire, il y a prendre l'avion quand il y a une alternative avec le train en moins de 2h30, exactement. Il y a la question de la fin de l'artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus construire de la France moche, par exemple pavillonnaire, ou alors on pourra faire des bouts de... On pourra artificialiser si on compense ailleurs, on rend à la nature quelque part une partie de ce qu'on a urbanisé. Et puis on ne pourra plus non plus créer de grands centres commerciaux. Donc en fait, cette loi, c'est un peu le cercueil de la France moche, telle qu'on l'a connue, et je pense que c'est pour ça que ces sujets-là recommencent à avoir une actualité médiatique, parce que en fait, on est en train de se rendre compte rétrospectivement que c'est les dernières années où on va pouvoir, où ceux qui veulent continuer à construire ce modèle-là vont avoir les mains libres pour le faire. En fait, c'est quasiment terminé parce qu'on est dans un moment où on se questionne effectivement sur la manière dont on se déplace, la manière dont on consomme, dont on habite, etc. Tout ça, c'est la transition écologique qui l'a mise à l'ordre du jour. Il y a quelques années, tout le monde s'en foutait, clairement. Et pour répondre à ta question, il y a une partie de la population qui est très conscientisée sur ces problèmes, qui a conscience de leur existence et qui est d'accord pour shifter, pour changer de modèle. Mais tu as quand même une majorité qui est plutôt soit indifférente, soit en résistance. C'est celle à qui on dit, par exemple, pour les ZFE, donc c'est les zones à faible émission.
Dans lesquelles tu ne peux pas... dans lesquelles on ne pourra plus rentrer avec son SUV, pour faire très simple.
Si c'est avec une épave que tu ne peux pas rentrer.
Ah oui, c'est avec une épave.
Si c'est un SUV hybride, c'est bon. Voilà.
Ça passe.
Grâce aux amendements du groupe Les Républicains au Sénat, évidemment.
Ton SUV Tesla, genre,
c'est bon. SUV électrique passe, mais pas la
Peugeot 206.
C'est exactement...
Pas l'épave au diesel. Donc c'est vrai qu'il y a une injustice. Évidemment, il y a une dimension très sociale, puisqu'on dit aux gens qui ont peu de moyens, d'ailleurs en banlieue ou dans les grandes périphéries, notamment les gens qui ont des diesels, qu'en fait, ils ne pourront pas rentrer dans les centres-villes. Et quelque part, si je caricature un peu, qu'ils ne pourront plus non plus s'en éloigner, puisqu'on ne pourra plus construire de plus en plus loin, puisque ce ne sera pas écologiquement correct. Donc c'est vrai que là, il y a un risque aussi de se mettre à dos une partie de la population avec les nouvelles réglementations climatiques.
On arrive à la fin. C'est bon, rassurez-vous, le chat, on lui a apporté de l'eau, tout va bien. Personne n'est décédé, personne n'a été blessé dans la réalisation de cette émission. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai vu aussi dans le chat des gens qui parlaient de Le Corbusier, aussi l'architecture sur dalle, etc. Moi, ayant grandi pas très loin de la Défense, je fais partie de ceux qui aimeraient bien cramer un jour Le Corbusier, symboliquement le tuer, parce que j'en peux plus. En plus, il paraît qu'il est encore célébré aujourd'hui dans les écoles d'urbanisme et d'architecture.
Il est encore enseigné, tout à fait.
Et ouais. Ça me rend.
Il a encore beaucoup de fans d'ailleurs.
Et oui, il y a encore beaucoup de fans. C'est principe, comment reconnaître un fan de Le Corbusier? Il n'habite pas dans un quartier Le Corbusier ni dans un immeuble Le Corbusier. C'est la base de la définition. Mais vraiment, c'est le bouquin de la Fnac Le Corbusier. Il est que dans les appartements haussmanniens des étudiants de Télérama. Jamais chez les gens qui habitent dans un coin Le Corbusier. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Jean-Laurent?
Tu veux dire dans la vraie vie ou sur les réseaux?
Parce que là, les gens de Backseat t'ont entendu, t'ont trouvé passionnant. Et où est-ce qu'on peut le retrouver? Donc les livres,
Twitter, Twitter principalement, et les livres. En librairie, non, c'est comme si je...
En librairie, donc...
Sur un site qu'on ne mentionne pas quand on parle de e-commerce, non,
non? Non, 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 qui possède par ailleurs Twitch. Donc voilà, mais plutôt en librairie, c'est mieux, c'est votre libraire de quartier, c'est quand même vachement mieux. La France sous nos yeux, ce livre que tu as publié en 2021, et l'autre livre que tu as écrit, c'était No Fake, contre-histoire de notre quête d'authenticité. Merci beaucoup. Merci à beaucoup. Toi, Jean-Laurent Merci. Castelli. C'est Merci. La fin de cette actualité. Merci beaucoup à toi. On va marquer une pause et on se retrouve après la pause avec notre invité politique qui s'agira d'Aurélien Pradier, le vice-président des Républicains, qui sera sur notre plateau. C'est parti pour la pause. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue sur Backseat. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver, chers amis, dans cette émission extraordinaire sur Twitch, sur YouTube et en podcast. Très heureux de vous retrouver pour cette émission politique comme chaque semaine. Dans cette deuxième partie, on a des belles choses qui sont prévues, mais avant ça, comment ça va les filles? Les meilleures chroniqueuses du monde, Claire, ça roule?
Ouais, toujours bien, toujours.
Ouais,
bien.
C'était trop bien la discussion avec Jean-Laurent Castelli.
Ouais, vraiment.
C'était vraiment
c'est
chouette.
C'est difficile, comme tu disais pendant la pause, et ça pourrait continuer encore une heure à chaque fois.
Ouais, si on pouvait, on ferait, mais on peut pas. Sacha.
Ça va. Pareil, c'était passionnant.
C'était vraiment non, très,
c'était très
cool.
Intéressant.
Bon, bah écoute, super. Léa, ça roule aussi?
Ouais, moi j'attends le quiz à la con avec.
On n'attend que ça, évidemment. C'est un prétexte, la politique sur Backseat.
Je vois que ça nous a rebaptisé. On est désormais les Spice Girls.
Les Spice Girls, d'accord.
J'ai pas la ref. Là, on n'est pas assez en fait. Il faut leur expliquer qu'il en manque.
Non, mais Girl Power quand même.
Oui.
Ah oui, non, Girl Power quand même.
Oui, oui.
Je sais pas si vous êtes au courant, il y a encore des gens qui le savent pas, mais cette formidable émission, elle est financée grâce aux généreuses donations de ces des gens qui l'aiment bien.
Généreuses donatrices.
De généreux donateurs et généreuses donatrices, tout à fait, absolument. Et pour ça, il faut aller sur la page utip.io/Jean Massier, sur laquelle vous
Point
pouvez...
Yo.
Exactement, sur laquelle vous pouvez participer au financement participatif. Merci Léa pour cette aide. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un don.
Il faut que ça imprime, c'est un moyen.
Si vous aimez bien cette émission, si vous trouvez qu'elle est cool, qu'elle a sa place, qu'elle a du sens, etc., n'hésitez pas à filer de la moulaga. Ça fait plaisir. Vous pouvez aussi offrir à votre Valentin, votre Valentine, un sweat, un t-shirt, un mug, une place dans le public, tout ça. Ça va toujours le public?
Ouais!
Vous êtes content d'avoir claqué 50 balles pour venir?
Ouais!
Voilà. 49,3 évidemment, 49,3 euros, bien entendu. Chers amis, sans plus tarder, je vous propose qu'on passe à la séquence suivante de l'émission et ça va être la formidable chronique d'Adèle. C'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle.
Salut Charlie et les filles.
Oh non.
On a tout et on a eu deux.
Non, pas Charlie's Angels, non.
Bah non. Les Spice Girls, elles sont 5, donc pardon, ça marche pas non plus.
Là, il en manque encore une, je suis désolé.
Les Destiny Child.
Ça me fait rire,
les filles. Elles sont 3.
Ouais, c'est vrai.
Ah ouais, je prends. Mais je suis Beyoncé.
Ben voyons.
Adèle, de quoi tu veux nous parler?
Eh ben qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, les amis?
Pas grand chose.
Bah,
hein.
Tu vas nous dire.
Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous proposez pas grand chose, très bien. La France moche, quoi. Ça bah, non, parce que c'était pas que la France moche, précisément. Il y avait aussi la France love.
Ah.
C'était la Saint-Valentin cette semaine.
Non, s'il vous plaît.
Bah oui, non. François, le gagnant 2018 de l'amour est dans l'hémicycle. Et l'esprit de l'amour, on l'a bien ressenti à l'Assemblée nationale cette semaine.
Et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin.
Un ruissellement de love. Hein. Là, c'est... Alors heureusement que Jean est là pour nous rappeler la question fondamentale du jour des amoureux.
Où comptez-vous chercher ces fonds? Quelles en sont les règles? Avec ou sans plafond? Avec ou sans franchise? En dehors des règles des minimis?
Avec ou sans capote? Ah non, non, mais non.
Qu'un pays membre ne peut déroger à l'interdiction des NNI enrobés sur des graines de betterave.
En tout cas, merci Jean d'avoir relevé le niveau de cette semaine. On en avait bien besoin.
De rien, service.
Oui. Alors après, j'ai été voir ce que nos politiques avaient posté sur les réseaux sociaux pour Valentine's Day. Et ben, j'ai été hyper déçue. Mais non, mais tu rigoles d'avance parce que t'espérais quelque chose. Mais non, rien. Pas de mention gnangnang, les gars. Pas de cœur en paillettes, pas de petits chats qui disent « je t'aime, mon amour », rien. Même pas une story de Marlène Schiappa.
Même pas.
Non, pas une photo de cœur en mousse de lait postée dans le café de Bruno Le Maire. Non, même pas. Et même pas un haïku de Christophe Castaner. Putain, je vous jure, j'ai cru que l'amour était mort. Et puis je suis tombée sur un souvenir posté par Isabelle Balkany. Oh oh. À toi Isabelle, joyeuse Saint-Valentin, je t'aime Patrick, parce que... Ah, y a-t-il de meilleure façon d'exprimer un amour inconditionnel qu'en utilisant les moyens publics de la ville? Je ne sais pas. Et j'avoue qu'il n'y a pas eu un autre témoignage d'amour aussi auquel je ne m'attendais pas. Mais alors, vraiment pas. Et on peut le lancer cette fois en régie. Oui.
À mort.
Non, je vois pas pourquoi tu dis ça.
Non, mais dis pas que
moi. Oh non, c'est pas cringe.
Oh non.
Oh non, regarde. Précision, hein. Ah, on est content de savoir qu'à la préfecture de police, on sait se garer aussi précisément.
C'est la presse qui a fait ça.
Ah oui, c'est sur le compte Twitter de la préfecture de police.
Oh.
Et oui. Oui,
ça doit
oui.
être super dur à faire quand même. Franchement.
Mais ils ont que ça à foutre.
Bravo à
surtout, c'est ça la vraie question, quoi. C'est ça la vraie question.
Mais qu'est-ce qui représente mieux l'amour qu'un escadron de motards qui dit je suis gardienne de la paix de ton cœur?
Je sais pas, moi.
C'est pas un haïku de Castaner,
ça? Ça pourrait. Non, mais des petits cœurs battent derrière les LBD, hein, et c'est bien de s'en souvenir en ce jour de manifestation. Et il y a un autre endroit où tout n'était qu'amour cette semaine, et c'est. Chez les LR.
Ah oui.
Eh oui. La preuve en image, Julien Aubert, l'un des 21 vice-présidents du Parti Républicain, c'est pas une vanne.
Il est toujours vice-président, Julien Aubert ?
Tout à fait. Enfin, en tout cas, sur l'organigramme auquel j'ai eu accès, il était, mais vous pourrez peut-être vous renseigner bientôt. Julien Aubert, donc, nous explique sa conception de l'amour.
Ah, ça doit être quelque chose. Hein.
Vous avez un devoir de responsabilité. Nous sommes la Saint-Valentin. Et tous les gens qui connaissent la Saint-Valentin savent que l'amour, c'est bien. Les preuves d'amour, c'est mieux.
Bah oui, l'amour c'est bien, l'épreuve d'amour c'est mieux. Est-ce que on dirait pas un mauvais coach en séduction? Ok, donc leçon number one, l'amour chez les LR, tu vois, c'est aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Chut, chut. Là je t'aime. Non mais il va où avec ça, le docteur Love?
Notre parti politique a donné beaucoup d'amour à Aurélien Pradier. On peut dire même que c'est l'enfant chéri de ces dernières années.
Enfant gâté.
Voilà, l'enfant chéri ne doit pas devenir un enfant gâté.
Gna gna gna. Juju, il est coach en amour vache. Hein. Vache. Mais d'ailleurs, ça soulève the question que se posent tous les journaux, radio, télé en ce moment. Mais que se passe-t-il avec Aurélien Pradier?
Ben oui.
Ben oui, on se pose la question. Eh bien, vous le saurez en suivant la telenovela de l'année, la série événement de 2023, Los Republicanos. C'est une coproduction LCP Public Sénat uniquement disponible sur la chaîne de Jean Massier. Et elle démarre sa 76e saison. Oui, parce que oui, oui, l'ancêtre des LR, les amis, c'est le RPF, RFP, pardon, et ça a été fondé en 1947. Qu'entends-je ? Précédemment, dans Los Republicanos, le CEO de la multinationale France Incorporated Holding International, El Macron, a décidé de faire travailler ses employés plus longtemps. Il pique ainsi le projet du clan rival. Los Republicanos, qui dirigeait précédemment la même société, mais qui, en dépit des efforts inconsidérés de la Doña Valeria, baronesse de la RATP et proche amie de Beyoncé, ne réussirent pas à reprendre le pouvoir. Los Republicanos, aujourd'hui, sont déchirés. Déchirados. Entre leur haine d'El Macron et leur amour pour la retraite par répartition. Le plus vieux, les plus vieux de la dynastie, les padrinos, El Jefe Ricky Tito et son frère ennemi, Don Bruno Rotaio. Et alors c'est drôle parce que les prénoms et les noms vendéens, ça passe crème dans une télé Mandela. T'as pas besoin de les changer, c'est hyper intéressant. Je disais donc, Los Padrinos ont finalement choisi de soutenir El Macron. Mais c'était sans compter avec le jeune et
Impétueux Aureliano. Il ne peut se résoudre à accepter ce choix qu'il trouve injuste. Et s'il y a bien quelque chose qu'Aureliano n'aime pas, c'est la injusticia. Dans sa tête, le chaos, dois-je être fidèle à ma famille ou suis-je libre? Les dirigeants de mon clan sont vieillissants, ils n'ont même pas de compte TikTok. C'est à moi d'engager le bras de fer avec El Macron. Alors Don Bruno l'a pourtant averti, nous t'aimons comme un fils, Aurelianito. Mais si tu ne respectes pas les lois de la famille, tu seras repudiado. Mais Aureliano, qui a la tête dure comme Elisabeth Borne, et qui n'a surtout pas peur qu'on lui casse les dents, vous comprendrez les références peut-être plus tard, a annoncé qu'il ne céderait pas à la intimidation. Comme si ça lui en touchait une sans faire bouger la otra. Comment los republicanos réagiront-ils à ce cri de liberta? Aureliano annoncera-t-il sa démission du cartel et la Doña Valeria ira-t-elle au concert de Beyoncé? Vous le saurez en suivant le prochain épisode des Los Republicanos. Et vous le saurez aussi en écoutant l'interview de l'un des acteurs principaux de la série, tout de suite sur Backseat.
Merci beaucoup Adèle Norbert, mesdames et messieurs. Merci beaucoup Adèle. Abonnez-vous évidemment pour suivre les prochains épisodes.
Pour enchaîner après ça.
Et tu sais à qui on va demander ça? Eh bien, c'est à notre invité politique. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous demande d'inviter sur le plateau de cette émission le vice-président des Républicains, Aurélien Pradié. Bonsoir Aurélien Pradié.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté
Merci
notre invitation. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Backseat. Je le disais, vous êtes vice-président du Parti Les Républicains, député du Lot. Député du Lot, vous avez été décrit par le journal Le Point comme un bébé Chirac, comme un rebelle. On dit que vous travaillez votre gauche, on parle aussi de franc-tireur, de solitaire. Bref, il y a plein de qualificatifs qui vous décrivent. Vous avez été découvert en grande partie par ma communauté sur Twitch lorsque j'ai couvert le débat du Congrès Les Républicains, puisque vous étiez candidat contre Éric Ciotti et Bruno Retailleau pour la présidence du parti. Et on a découvert Aurélien Pradié, un profil un peu iconoclaste dans son propre parti. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser ce soir. Mmh. Et parmi les questions qu'on voulait vous poser, vous sortez à peine de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour venir sur le plateau de Backseat. D'ailleurs, je le dis par avance, vous allez y retourner juste après parce que ce soir, ça va reprendre, pas trop crevé.
Non, tout va bien, je suis très heureux d'être
c'est
avec
ça,
vous.
C'est un gros mensonge, ça.
Ouais, je pense que mon visage trahit autre chose que ce que je vous dis.
Vous avez l'air claqué, c'est vrai. Mais ça...
Merci beaucoup, je suis très heureux. De...
Mais c'est aussi ça, être député.
Commencer par des compliments.
Et justement, aujourd'hui, donc, journée dans l'hémicycle pour vous, journée de mobilisation dans la rue partout en France, on l'a dit tout à l'heure, dans les villes moyennes, notamment à Albi, appel à la grève pour le 7 mars. Est-ce que ça vous laisse entendre qu'on est sur la bonne voie? Est-ce que ce mouvement social d'opposition à la réforme des retraites, vous qui êtes contre le décalage de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, est-ce que ce mouvement montre la voie pour vous?
Je ne sais pas, est-ce que j'ai une opposition totale à la réforme des retraites? Non, je pense qu'il faut qu'on puisse réformer notre système de retraite, je pense qu'il faut le faire autrement, différemment. C'est des propositions anciennes que j'ai portées, notamment à l'époque où j'étais candidat face à Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Mais nous, on est dans un autre combat qui est le combat qu'on mène à l'Assemblée nationale, qui est un combat parlementaire, un combat démocratique. Et moi, je n'aime pas trop mélanger les choses. J'aime pas quand ce sont les leaders syndicaux ou la rue qui donnent des ordres aux députés. Nous, on est totalement libres. D'ailleurs, on doit l'être à l'égard du parti politique aussi. Un petit peu. Depuis deux, trois jours, on a le sentiment que c'est un peu les uns les autres qui s'organisent et qui se coordonnent. Donc nous, on a une bataille parlementaire à mener. Elle est compliquée parce qu'elle traîne. C'est très long. Qu'on n'ira pas jusqu'au bout de l'examen du texte, puisqu'il y a une date limite qui est vendredi minuit, qu'on ne pourra pas voter sur tout le texte. Donc on essaie d'arracher, en tous les cas, c'est le combat que je mène, progressivement des mesures qui feront que la vie des Français sera meilleure.
Alors on va en parler justement de ces mesures et des différents pas de deux qu'a fait le gouvernement sur cette mesure. Mais avant ça, plus globalement, pourquoi Aurélien Pradié, vous opposez-vous au report à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite, alors que vous êtes vice-président d'un parti qui proposait il y a encore quelques mois 65 ans comme l'âge légal de départ? Pourquoi?
D'abord, c'est le fait que j'ai une fonction au parti ne conditionne pas mes convictions. Parti politique, ce n'est pas une caserne, ce n'est pas une secte, heureusement d'ailleurs. Et on peut dire des choses différentes les unes des autres dans un parti politique. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut respecter ceux qui bossent dur. Ouais. Ceux qui bossent dur, c'est généralement ceux qui ont commencé tôt. Mmh. Et pas que ceux qui ont fait des études ne travaillent pas dur. Mais quand vous avez commencé à 14 ans, à 16 ans ou à 17 ans, pour moi, c'est normal que vous partiez plus tôt que celui qui a commencé à 25 ans. Et dans les études qu'on a d'ailleurs, ceux qui ont commencé à travailler tôt sont en général ceux dont les métiers sont les plus pénibles, physiquement, sont des artisans, etc., et dont les salaires sont plus bas que ceux qui ont commencé à travailler plus tard. Ça se comprend, quand vous avez fait des études, vous avez un niveau de salaire meilleur. Et cette réforme-là, elle prend mal en compte ce point-là. ce qu'on appelle les carrières longues. Celui qui a commencé à bosser tôt va devoir faire, s'il a commencé à 16 ans, 44 ans de cotisation, 44 annuités, alors que celui qui a commencé à 25 ans ou à 30 ans va aussi faire 44 annuités. Et donc c'est une des batailles que j'ai menées parce que je souhaite que la réforme des retraites ne soit pas une manière de faire en sorte que ceux qui travaillent déjà dur soient condamnés demain à travailler encore plus dur pour financer je ne sais quelle autre dépense sociale. Voilà ce que j'ai toujours défendu.
J'ai une question là-dessus, mais avant ça, pourquoi j'ai l'impression d'entendre un responsable de gauche là, dans tout ce que vous venez de dire ? Pourquoi ça sonne de gauche dans ma
Parce qu'il faut que vous remettiez votre cerveau à l'endroit, mais ça je vais
aidez-moi,
vous
s'il vous plaît.
Je vais vous y aider progressivement. Non, si je suis plus sérieux, parce que ça fait déjà près de 10 ans que la droite, elle tient plus discours.
Oui.
Parce qu'on a presque oublié que fut un temps où la droite, elle était extrêmement attentive, hyper respectueuse des travailleurs, des familles modestes, des travailleurs les plus modestes de notre pays. Vous savez, quand la réforme des retraites a été conduite par Jacques Chirac à l'époque et par Nicolas Sarkozy...
2003 et 2010.
Exactement. À ces deux occasions, on a créé ce qu'on appelle le régime de pénibilité, qui aujourd'hui est en place, et le dispositif des carrières longues, dont je parlais aujourd'hui, qui doit être amélioré. Donc la droite, historiquement, elle a toujours été attentive à respecter le travail, y compris le travail le plus dur. Sûrement, depuis quelques années, on a eu le sentiment que la droite, elle s'intéressait plus aux chiffres qu'à la vie de nos concitoyens. Moi, je me suis engagé en politique, j'avais 17 ans. Je ne viens pas d'un milieu politique, mes parents ne faisaient pas de politique, je n'ai pas fait d'études politiques, enfin, le peu que j'ai fait, ça n'a pas été une réussite. Et très tôt, je me suis engagé comme élu local. Et je me suis engagé parce que je considérais que la politique, elle était là pour corriger les injustices, pour en particulier porter la voix de ceux qui n'avaient pas de parole. Ceux pour qui tout va bien, en général, ils savent se défendre. Ceux pour qui ça va mal, c'est plus compliqué.
Vous parlez de la France qui bosse et du respect de ceux qui travaillent. On a aussi beaucoup entendu la droite défendre la baisse du coût du travail, réduire les cotisations sociales, réduire les impôts sur les entreprises et sur les ménages. Ça peut aussi créer cette dissonance cognitive dans ma tête quand je vous entends prononcer ces discours-là.
Oui, sûrement. Et puis aussi parce que depuis 10 ou 15 ans, la droite, elle s'est résumée à être une punition pour les Français. Alors, je ne fais pas de détails sur quelques campagnes présidentielles, mais même moi qui étais un militant de ces campagnes présidentielles, j'avais le sentiment que l'objectif politique était de punir les Français. Les punir de quoi ? Est-ce que les Français sont vraiment les responsables aujourd'hui du fait que les politiques n'aient pas tenu les comptes publics ? Ce n'est pas les Français qui sont responsables de ça, ce sont les responsables politiques qui le sont. Est-ce que celui qui a commencé à bosser à 16 ans, on peut le tenir comme responsable du déficit du système de retraite ? Ben pas du tout, il va cotiser plus que les autres. Bref, c'est tout cela que j'essaie de dire. En fait, je retrouve le chemin d'une droite qui a historiquement existé. Alors, c'est très ancien, je n'étais pas né, et beaucoup d'entre vous ne l'étaient pas non plus. Mais la droite qu'on appelle gaulliste, c'est-à-dire celle du général de Gaulle, qui est une vieille histoire, et puis tout ce qui a suivi ensuite, c'était une droite qui était capable, je ne sais pas si elle était sociale, mais en tous les cas, elle était très attentive aux injustices. Et puis, je vous redis que moi, je me suis engagé en politique pour ça, parce que je pense que la politique, elle est faite pour lutter contre les injustices, pas pour gérer les injustices. Et ces combats-là, c'est ceux que je mène depuis quelques années sur beaucoup de sujets, les violences conjugales, le handicap et aujourd'hui les retraites.
Léa.
Merci, bonsoir.
Bonsoir.
Alors...
oh l'intro.
Non, j'ai plein de choses en tête. Vous parliez tout à l'heure du fait que le parti politique n'était pas une secte, tant mieux, parce que les sectes sont interdits en France. Encore qu'on
et les partis politiques, pas encore. Et
les partis politiques, pas encore, effectivement, même s'ils n'ont pas beaucoup de succès, il faut bien le dire.
Moins que les sectes, c'est vrai.
Ouais.
Ouais, c'est vrai.
Les Républicains ont perdu énormément d'adhérents, on ne va pas revenir là-dessus, et adhérentes. Il y a quand même une certaine logique de discipline au sein d'un parti. Là, on a vu avec le bureau politique de LR, qui a quand même voté une motion de soutien à cette réforme des retraites. Que vous n'avez pas voté au demeurant. Est-ce que, quand vous voyez Éric Ciotti qui deal en quelque sorte quelque chose en amont avec le gouvernement, qu'est-ce que ça vous fait, vous ? Parce qu'en fait, là, ça a été dealé, en quelque sorte, que LR allait soutenir cette réforme. Et vous êtes que quelques-uns à, finalement, être un peu un caillou dans la chaussure et du gouvernement et des LR.
Oui, et puis c'est très bien. Moi, j'ai rien dealé. Depuis le départ. Et d'ailleurs, vous voyez, ceux qui peut-être ont donné l'impression d'avoir dealé très tôt, est-ce que c'est la méthode qui a permis d'obtenir le plus de choses ? Alors, la semaine dernière, quand j'ai commencé à dire sur les retraites, je ne suis pas d'accord, il faut qu'on corrige la question des carrières longues, pendant une semaine, tout le monde a dit « Pradier, c'est un emmerdeur, ce type, c'est un jusqu'au boutiste », j'ai eu quelques compliments de mes amis, vous voyez, qui disaient « Mais enfin, pourquoi il ne s'était pas, celui-là ?» Bon, on a obtenu qu'Elisabeth Borne bauge sur les 17 ans. C'est-à-dire ceux qui ont commencé à 17 ans vont faire 43 ans.
En fait, vous êtes meilleur que, l'état-major de Républicains pour obtenir des trucs. Bah si, c'est un peu ça ce que vous nous dites.
Ne me demandez pas de répondre à cette question, j'ai déjà assez d'emmerdement depuis une semaine.
On embrasse la direction des Républicains qui regarde cette
typiquement,
émission.
Mais... êtes-vous satisfait de cette avancée, entre guillemets, de la part d'Elisabeth Borne?
Non, ça ne suffit pas.
D'accord.
Et j'ai été très clair, j'ai dit que tous ceux qui avaient commencé avant 21 ans, qui sont en carrière longue, doivent pouvoir partir avec les 43 annuités. Elisabeth Borne a d'abord bougé sur les 20-21 ans. Alors accrochez-vous parce qu'il faut, comprendre. Elle a dit, bon, mais pour les 20-21 ans, je veux bien, ce sera 43 annuités. Pour ceux qui ont commencé à 14 ans, ce sera 44 annuités. Pour ceux qui ont commencé à 15 ans, ce sera 43 annuités. Pour ceux qui ont commencé à 16 ans, ce sera 44. Pour ceux qui ont commencé à 17, ce sera 43, etc., etc. Donc ça dépend si vous avez commencé à un âge pair ou à un âge impair, ben vous êtes gagnant ou vous êtes perdant.
C'est un impact aussi sur la surcote.
C'est totalement injuste.
Et l'impact sur la surcote.
C'est totalement injuste et totalement stupide. Et donc, Elisabeth Borne a annoncé ça hier. Personne n'a rien compris. Pendant une heure, je suis passé pour le grincheux de service parce que quand tout le monde m'a dit « Alors, vous êtes content, Monsieur Pradier, vous avez obtenu ?» Je dis « Ben non, on a obtenu sur les 17 ans, mais excusez-moi, il y a encore un problème sur les 14 ans, les 16 ans et les 18 ans. » Et pendant quelques minutes, certains de mes amis ont dit « Ben enfin, ça suffit, c'est pas possible, il va nous embêter jusqu'au bout. » J'ai tenu et vous voyez, depuis deux jours, les uns et les autres, y compris les journalistes, observent en disant « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Pourquoi est-ce que ceux qui ont commencé à 14 ans feraient un an de plus que ceux qui ont commencé à 15 et ceux à 16 et ceux à 17 ?» Et donc, on a bon espoir que ça bouge. Et en tous les cas, moi, je ne lâcherai pas ce combat.
Ça peut encore bouger d'ici à demain soir ?
Bien sûr, ça peut bouger jusqu'à demain soir. D'ici à demain soir, ça peut bouger après. Et moi, j'ai dit clairement, si ça n'a pas bougé, je voterai contre la réforme. Si ça a bougé, je la voterai. Les choses sont très claires. Maintenant, on va voir si les Indiens que nous sommes quelques-uns à être depuis quelques jours...
Il y a d'autres dispositions de la réforme qui vous dérangent ?
Moi, si j'avais fait la réforme, je l'aurais faite différemment, mais la question ne se pose pas, je ne suis pas au gouvernement. Moi, j'ai défendu la question de la durée de cotisation, c'est-à-dire que je ne suis pas fan de l'âge légal. Je pense que quand on dit qu'il y a un âge légal, c'est assez hypocrite. C'est hypocrite pourquoi ? Parce que vous avez des Français qui ne partent pas à l'âge légal, qui ne peuvent pas partir à l'âge légal parce qu'ils sont cassés par le travail avant ou qui certains vont continuer après parce qu'ils sont en bonne santé et ils veulent continuer davantage. Et pour moi, ce qui est le plus juste, c'est la durée de cotisation. Aujourd'hui, pour partir à la retraite, que tout le monde comprenne bien, il vous faut avoir fait 43 annuités de cotisation, c'est-à-dire avoir cotisé pendant 43 ans, et avoir atteint l'âge légal, 64 ans. Donc, si vous avez, par exemple, commencé très tôt, à 18 ans, que vous avez fait vos 43 annuités, ben, on vous oblige à aller jusqu'à 64 ans, alors que vous auriez pu partir à 62, par exemple. Je trouve ça injuste. Donc, moi, j'ai défendu cette idée, mais c'est une autre réforme des retraites, qui consiste à dire, vous partez quand vous avez atteint le nombre d'années nécessaires. Maintenant, je m'attache à la réforme telle qu'elle est proposée par le gouvernement. Je ne peux pas tout réécrire. Donc, je choisis mes combats et j'essaie d'améliorer le texte, notamment avec la question des carrières longues.
Sacha.
J'ai une question sur ce que vous disiez tout à l'heure, comme quoi la droite avait abandonné les travailleurs. Est-ce que la droite n'a pas abandonné les travailleurs parce qu'elle est devenue obsédée par l'immigration et les enjeux sécuritaires ?
En partie. Sûrement parce qu'on n'a plus parlé que de ces sujets. Donc, on a oublié de parler du reste. On a oublié de parler d'écologie, on a oublié de parler de tous ces sujets sur lesquels la droite, historiquement, a eu des choses à dire. On l'a un peu oublié, mais Chirac a porté des grands engagements sur la question écologique, notamment l'inscription du principe de précaution dans la Constitution de la République, qui était un acte de protection de l'environnement très très fort à l'époque et très contesté. C'est Chirac qui le porte. Mais ensuite, la droite, elle n'a parlé effectivement que de ces questions d'immigration, qui sont importantes. On ne peut pas considérer que ce sont des sujets secondaires. On a oublié de parler de tout le reste. Et donc, on a fini par répéter toujours les mêmes rengaines sur ces sujets, à tel point que les Français ne nous écoutaient plus, et on a fini aux dernières présidentielles avec moins de 5%. Voilà pourquoi je pense qu'il faut secouer la table. Alors,
quand si j'essaie de résumer effectivement ce que vous avez défendu dans cette campagne au Congrès Les Républicains, vous avez essayé de dire la droite ne s'en sortira pas si elle continue avec son triptyque immigration, islamisme, baisse d'impôts. C'est une espèce de cercle, pour vous, c'est un cercle qui ne mène nulle part, que face à une Marine Le Pen et un Emmanuel Macron, la droite républicaine, si elle veut renaître, doit réinventer son discours et proposer autre chose. C'est ça, Aurélien Pradier ? C'est comme ça qu'on peut le dire ?
Ce que je souhaite, c'est que la droite, elle parle de la vie de nos concitoyens. Moi, je me suis engagé en politique, pardon, je parle de moi, mais beaucoup de mes amis aussi.
C'est beaucoup en interview.
Pour changer la vie des Français. Pour changer la vie. Si vous avez 5 ans de présidence de la République et que ça ne change pas positivement votre vie, ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de politique pour ça. Il faut mettre des technocrates qui gèrent le pays. La droite doit retrouver un idéal. Et l'idéal, ça ne peut pas se résumer au triptyque que vous évoquiez. L'idéal, c'est celui qu'on peut porter en disant, ben, par exemple, demain, il faut travailler plus, oui, mais il faut travailler mieux. C'est-à-dire qu'il faut organiser nos semaines, peut-être avoir un peu plus de temps libre pour travailler davantage, pour en profiter, etc.
Vous seriez prêt à défendre une réduction du temps de travail sur l'année, sur la semaine, sur la journée? Vous seriez prêt à défendre un travailler mieux?
Oui, je l'ai fait. Il y a un mois, j'ai proposé que la droite réfléchisse à la semaine de 4 jours, mais travailler entre 36 et 38 heures.
Pourquoi?
Parce que oui, en 4 jours, mais ce qui est possible, ce qu'on fait déjà, hein, beaucoup de travailleurs le font.
Il ne faut pas avoir d'enfants, quoi, mais ouais.
Oui, mais si, parce que justement, vous pouvez vous profiter de vos enfants le 5e jour, le 6e et le 7e. Aujourd'hui, vous voyez quand on est recruté dans une entreprise, on négocie deux choses aujourd'hui. On négocie son salaire, on négocie aussi l'organisation du temps de travail pour pouvoir bénéficier d'une journée supplémentaire, etc. Si vous voulez vraiment profiter du vendredi avec vos enfants, il vaut mieux avoir bossé un peu plus avant pour avoir un salaire un peu supérieur. Mais cette idée, je l'ai posée sur la table il y a un mois, en disant « travaillons plus, mais travaillons mieux dans l'organisation de la semaine ». À ce moment-là, j'ai pas mal de mes amis qui ont dit « mais c'est qui ce gauchiste qui vient nous expliquer la semaine de 4 jours ?» Et puis depuis...
Ouais, en même temps, vos amis, ils partent de loin, hein, faut le dire.
C'est beaucoup mieux quand c'est vous qui le dites.
Pour le
gauchiste. Mais en attendant, le sujet, il a fait du chemin. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a un ministère qui est en train d'expérimenter le dispositif, beaucoup d'entreprises sont en train d'y penser. Il faut que la droite, elle ait un peu d'audace, donc de temps en temps, c'est bien de secouer le tapis, quitte à casser un peu de vaisselle.
Claire.
Ouais, alors, moi j'avais une question par rapport en fait à ce que... Parce que je trouve que votre position justement sur ce débat autour de cette réforme-là, c'est pas anodin par rapport à la vision que vous portez de l'économie. Et une des raisons pour lesquelles LR s'est effondrée, c'est aussi que la vision économique que vous portiez, qui était globalement libérale, a été récupérée par Macron. Et dans ce que vous décrivez, dans la défense des carrières longues, du travail, de la qualité de vie des gens, en fait, ça implique un certain rapport de force avec ce qu'on va appeler globalement le capital et le système économique. Donc, est-ce que votre droite populaire, votre droite sociale qui s'inscrit un peu dans les pas d'un Chirac, elle est compatible en fait avec le modèle néolibéral? Est-ce qu'elle implique une rupture avec le modèle néolibéral?
Oui, c'est parfaitement compatible. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Il y a le modèle libéral, il y a le capitalisme, tout ça, ce n'est pas la même chose. Et puis, il y a la loi de la
jungle.
Mais
je sais bien, merci.
Oui, mais je sais, bien sûr. Je n'ai pas supposé que vous le mélangiez. Mais c'est pour ceux qui nous écoutent, j'ai bien compris que vous ne le mélangiez évidemment pas. Et puis, il y a la loi de la jungle. Moi, je ne suis pas favorable à la loi de la jungle. Je ne suis pas favorable aujourd'hui à voir des acteurs économiques faire des profits qui n'ont pas de sens, qui ne veulent rien dire, qui sont de la pure spéculation. Moi, l'économie à laquelle je crois, c'est une économie qui crée de la richesse, vraiment, pas qui fait de la spéculation. Je vous prends un exemple concret. On entend beaucoup aujourd'hui parler du prix de l'électricité. Il y a quelques années, et c'est sous Nicolas Sarkozy en l'espèce, on a libéralisé le marché de l'électricité. Et qu'à l'époque, c'était EDF qui avait un monopole. C'était l'ensemble des Français qui payaient, qui investissaient dans EDF avec leurs impôts. Et on a libéralisé, on a dit maintenant, tout le monde peut vendre et acheter de l'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé? On a des boîtes qui se sont créées, qui n'ont pas créé un seul emploi, hein, qui n'ont pas créé une seule usine, et qui ont dit, nous, on va acheter l'énergie qu'on n'a jamais fabriquée, et on va la revendre. Et on a créé une bulle spéculative, qu'on appelle le marché européen de l'énergie aujourd'hui, qui fait qu'on paye 100 fois l'électricité par rapport à ce qu'on pouvait payer à une époque. Ça, ce n'est pas l'économie que j'aime.
Donc pour vous, c'est là où la droite a commencé à se perdre. En gros, quand elle a avalé un libéralisme...
Honnête, elle n'est pas toute seule à s'être perdue là-dedans.
Tout le monde s'est un peu perdu.
Elle a été perdue, une partie de la gauche aussi. Une
partie de la gauche aussi, je suis d'accord. En fait, moi je crois, alors, je ne suis pas un affreux communiste qui consiste qu'il faut tout contrôler, etc. Non, vraiment pas. Je pense que la liberté économique, c'est ce qui crée de la liberté au sens général du terme aussi. C'est bien d'avoir de la concurrence parce que ça stimule les uns et les autres. Mais je pense aussi qu'il faut des règles, voilà, des règles de base. Et d'ailleurs, je le dis d'autant plus que, vous voyez, quand on voit des grandes entreprises qui font des profits invraisemblables, qui ne sont pas justifiés, ça a un ricochet négatif sur toutes les entreprises qui méritent vraiment l'argent qu'ils gagnent. Et donc, je ne veux pas que ça installe une défiance à l'égard de toutes les entreprises, y compris des plus petites entreprises. Donc oui, je suis favorable à ce qu'on remette un peu de sens dans l'économie.
Un peu de nationalisation, des choses comme ça?
Ça ne passe pas par la nationalisation.
Enfin, concrètement, ça passe par
EDF,
quoi?
Si on parle d'EDF, oui. Pour EDF, il faut sortir du marché européen de l'énergie. C'est n'importe
c'est un
quoi.
Bon début, oui.
Personne ne peut défendre ce truc. C'est un bidule qui coûte de l'argent
à tout le monde. Mais personne
ne
le défend. Enfin, il y en a de moins en moins maintenant, il faut être honnête.
C'est vrai. Personne ne le défend, mais personne n'a le courage de mettre les pieds dans le plat en disant maintenant on en sort. Sauf certains pays d'Europe qui en sont sortis, mais nous, la France, on regarde, on dit c'est pas bien, et vous rendez compte, le modèle est tellement stupide qu'on a perdu notre souveraineté énergétique, on l'a confié à un marché européen de l'énergie, et c'est l'État qui signe des chèques de 100 euros pour les citoyens pour qu'ils puissent payer cette électricité qu'on arrivait à produire à l'époque et qui nous appartenait. Enfin, pardon, mais il faut vraiment être absolument cinglé pour pouvoir défendre un système comme celui-ci.
Léa.
Vous disiez tout à l'heure que vous, vous êtes engagée en politique pour changer la vie des gens, changer la vie des Françaises et des Français. Ça fait près de 14 ans, si je ne me trompe pas, que vous faites de la politique. Qu'avez-vous fait concrètement ?
Quelques trucs. C'est vrai que ça fait 14 ans, je ne m'en rendais pas tout à fait compte. Moi, j'ai commencé, j'étais élu local, j'ai été maire. Donc voilà, j'étais maire de mon village, dans la commune où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai battu mon ancien instituteur qui m'avait appris à lire, à écrire et à compter quand j'ai commencé. J'ai créé une maison de santé qui fonctionne encore aujourd'hui, qui soigne beaucoup de monde, un accueil de jour pour les malades Alzheimer. C'était mon combat quand j'ai été élu maire de ce petit village. J'avais 25 ans, hein, donc j'étais un gamin, plus encore qu'aujourd'hui. Et puis ensuite, je suis devenu conseiller général, conseiller régional. Je suis arrivé à l'Assemblée en 2017. Mmh. J'ai porté deux propositions de loi, une sur le handicap à l'école et une pour lutter contre...
Qui avait été soutenue par UFIN, d'ailleurs.
Oui, exactement. Et une pour lutter contre les violences conjugales, qui a été adoptée à l'unanimité, qui fait aujourd'hui qu'on a le bracelet anti-rapprochement, qui est un outil qui permet de protéger les femmes.
Que des trucs de gauche, quoi.
Non.
Bah, on connaît la maison de santé, le handicap à l'école, la lutte contre les violences conjugales.
C'est là que je me dis que j'ai quand même un boulot monstrueux, parce que si vous vous dites que soigner les gens, protéger les femmes victimes de violences conjugales et bosser sur le handicap, c'est de gauche, c'est que vraiment la droite vient de très très loin. Bah, oui, la loi
oui,
Veil.
Peut-être.
Oui, mais c'est sûr qu'elle vient de loin. C'est une certitude, ce que vous dites est juste. La loi Veil sur l'avortement, c'est une loi qui protégeait les femmes. À l'époque, on l'a oublié, mais c'était plus que de leur donner un droit, c'était une protection des femmes, puisqu'elles étaient soumises à toutes les contraintes qui les poussaient à avorter. Ben, c'est la droite républicaine qui porte cette loi. Simone Veil, ce n'était pas une socialiste.
Avec les voix de la gauche, si on veut quand même
rappeler. Oui, puis avec certaines voix de la droite aussi, et pas toutes les voix de la gauche d'ailleurs à l'époque.
C'est vrai.
Mais la loi sur les violences conjugales dont je vous parlais, on a réussi à la faire adopter à l'unanimité. Ma seule satisfaction, et je ne réussis pas toujours, hein, j'ai fait plein de trucs inutiles et je n'ai pas tout réussi, mais c'est quand je rentre chez moi, là, vous voyez, on va finir de débattre demain. Bon, ben, si Mme Borne, elle se réveille demain matin en se disant « Bon, Pradier, il m'a assez cassé les pieds, on va céder sur les carrières longues », ben, samedi, je vais rentrer chez moi, je me dirai ben, « C'est pas mal, quoi, il y a 200 000 Français pour qui la vie va changer.
Ah » bah, si à vous tout seul, vous réussissez à obtenir plus que l'intersyndicale, oui, effectivement, on pourrait être content de vous.
C'est vrai que vous
je précise qu'il nous reste 10 minutes, parce qu'ensuite, Aurélien Pradier retourne dans l'hémicycle.
Sur les violences sexuelles et sexistes, et les violences notamment conjugales, intrafamiliales, vous avez été très engagé. Vous avez, si je ne me trompe pas, coécrit une partie du programme de Valérie Pécresse pendant la présidentielle.
J'écris que les trucs bien.
Hein. Oui, j'imagine bien. La situation actuelle au sein des partis politiques, qui est qu'il y a quand même un vrai problème à traiter les violences sexistes et sexuelles, notamment en interne, j'imagine que vous la regardez avec beaucoup de critiques. J'ai récemment entendu une interview de vous qui disait que finalement, ce n'est pas aux partis de se saisir de ces questions-là, mais c'est à la justice de s'en saisir. Il y a quand même un véritable problème sur la question des violences sexuelles et sexistes au sein des partis politiques. Les Républicains, et vous en êtes le vice-président, n'a absolument aucun dispositif pour traiter de ces questions-là. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je pense que ce n'est pas aux partis politiques de le faire. Moi, je me suis battu parce qu'on n'a pas les moyens. Enfin, quand une femme est en danger, un parti politique ne la protège pas.
Est-ce que vous êtes favorable à la création d'une instance type HATVP pour comme le préconise d'ailleurs le HCE ?
Mais moi, je ne veux pas de haute autorité. Je veux autre chose. C'est la dernière proposition de loi que j'ai portée à l'Assemblée nationale, qu'on a faite adopter contre l'avis du gouvernement. C'est la création d'une juridiction spécialisée.
Oui, c'est vrai.
Comme on l'a pour le juge.
Vous vous rendez bien compte que c'est insuffisant. Enfin, les entreprises mettent en place des mesures de signalement, des mesures d'enquête interne, etc. pour que les partis politiques ne le feraient pas.
Mais je suis d'accord avec
vous. Et le vôtre en particulier.
Nous, on le fait. On le fait à l'intérieur. Je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on a des signalements, les cellules, je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas.
Comment ça fonctionne ? Alors aujourd'hui, si on a une victime de violence sexuelle et sexiste au sein des LR, que fait-elle ?
Aurélien
Pradier. Je ne suis pas magistrat. Et donc, il faut comprendre une chose. Vous l'avez vu chez Europe Écologie Les Verts, les signalements. Vous avez vu les signalements ? C'est-à-dire que vous, dans un parti politique, vous vous signalez auprès de vos amis politiques. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça reste sous la cloche pendant des mois. On a eu l'exemple à Europe Écologie Les Verts. Ce qui compte, c'est que ça aille devant la justice. Parce que quand un homme est dangereux pour une femme, ce qu'il faut, c'est qu'on puisse, par exemple, prendre une décision en disant maintenant il y a une interdiction d'approcher, maintenant il y a un bracelet anti-rapprochement. Mais dans un parti politique,
vous connaissez la réalité de la justice aujourd'hui en France.
Eh bien, c'est pour ça qu'il nous faut une juridiction spécialisée.
Et en attendant,
eh bien, elle a été votée en première lecture.
Oui, bien sûr, mais aujourd'hui, elle n'est pas effective, ce n'est pas efficace.
Mais c'est le combat que je mène, et c'est le combat essentiel en Espagne, puisque c'est un pays qui a beaucoup d'avance.
C'est pas une raison pour ne pas aussi intervenir sur le, enfin, sur. Il faut traiter sur le volet. Enfin,
vous avez raison.
Même en externe. Enfin, moi, je suis favorable à externaliser ce type de choses.
Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous ne devez pas vous tromper d'objectif. À la fin des fins, il faut que ce soit la justice qui décide. Parce que c'est elle qui a les armes pour protéger les femmes. Et tout le temps qu'on passe avant à être dans des conseils et des cellules, c'est un temps perdu pour les femmes. En Espagne, lorsque une femme saisit la justice, il y a une juridiction spécialisée, en 72 heures, la décision est prise. Le bracelet anti-rapprochement, les ordonnances de protection, qui sont des outils de protection des femmes aujourd'hui. Dans la loi que j'ai portée, on a réduit à 6 jours le délai pour avoir des ordonnances de protection.
Vous ne pouvez pas faire une ordonnance une ordonnance d'éloignement pour une femme qui est typiquement victime de violence au sein d'un parti. Enfin, il faut que ça passe devant une juridiction, que ça réponde à un certain nombre de critères. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour les victimes de violence au sein de votre parti?
Mais il faut qu'elles aillent devant la justice. Enfin, c'est pas moi dans un parti politique. Mais attendez, qu'on se comprenne bien. Non, je fais pas rien. Mais vraiment, je pense que
mais c'est une vraie question.
Vous commettez une erreur d'analyse. Lorsqu'une femme est en danger, elle va se signaler à son parti politique. Moi, j'ai pas de pouvoir pour prendre une décision en disant au type en question maintenant interdiction d'approcher. Ce que je veux, c'est que cette femme-là
immédiatement.
Mais qu'est-ce que ça lui fait
de sanctionner? Il y a la présomption d'innocence là aussi. Hein.
Par exemple, vous pouvez aussi ne pas investir des hommes qui sont connus pour des faits de violence.
Mais lorsqu'il y a un danger, si je vois le type en question et que je lui dis écoute, maintenant, tu vas voir, tu vas être puni, hein, tu participeras plus aux réunions politiques. Mais c'est un contre-fou. Ce qui compte, c'est qu'un juge puisse le recevoir dans son cabinet et dire maintenant, il y a une décision de justice. Interdiction d'approcher, bracelet anti-rapprochement. Vraiment, je vous le dis, ce n'est pas une manière de me dégager. J'ai lutté sur la création de la juridiction spécialisée pendant des heures à l'Assemblée nationale contre l'avis du garde des Sceaux pour qu'on puisse voter ce texte. Ce que je veux, ce n'est pas qu'on s'achète une bonne conscience, c'est qu'on protège ces femmes. Et à chaque fois qu'on perd du temps, on les met en danger.
Claire.
Oui, alors... Sur un autre sujet, du coup, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, moi, en vous écoutant en première partie, j'avais l'impression d'un discours quasi humaniste sur la protection des plus vulnérables, etc. Et je me demandais, parce que vous portez aussi une droite qui serait écologiste, et une des spécificités de l'écologie, c'est quand même d'avoir une approche globale, notamment de la solidarité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit, la droite humaniste, sociale et écologiste que vous portez face aux millions de réfugiés climatiques qui arrivent et qui vont avoir besoin de passer la Méditerranée, nos frontières, etc. Quelle cohérence vous mettez entre tout ça?
Vous avez raison sur les questions d'immigration. Il va falloir qu'on se penche, nous, sur le sujet, y compris à réinterroger notre logiciel. Vous voyez, il y a un combat très concret. Parce que quand on parle d'écologie, et je sais que vous en parlez beaucoup, l'important, c'est d'aller vers le concret. Moi, j'ai mené durant la campagne interne une bataille sur la question de l'eau. Je disais, il y a un sujet essentiel dont on ne parle pas en matière environnementale, qui est l'eau.
Je voudrais vous interroger spécifiquement sur cette question-là.
J'en viens au déplacé climatique. Vous avez aujourd'hui la moitié du continent africain qui, si on ne fait rien d'un point de vue climatique, dans quelques années, n'aura plus accès à l'eau. C'est là que les déplacements de population vont se faire. La montée de la température, c'est une chose, mais l'inaccès à l'eau, c'est ce qui fait le déplacement massif des populations. Et personne ne les empêchera de le faire et personne ne pourra le leur reprocher.
Pour le moment, le projet de la droite, c'est plutôt de fermer les frontières.
Il faut reprendre la base. Reprendre la base, ça veut dire reporter une politique avec l'Afrique pour qu'ils aient accès à l'eau et que ce pays et ce continent puissent se développer.
Oui, mais
ça, ce sont des vrais sujets migratoires. Oui.
Il y a des études qui montrent qu'une partie des migrations actuellement à l'œuvre sont déjà liées à des phénomènes climatiques, écologiques, etc. Et la droite est déjà en train de dire « on n'en veut pas ». Durcissez les procédures d'expulsion. On va le voir, l'influence de la droite sur la prochaine loi asile et immigration. Donc vous êtes déjà dans ce discours-là qui est en fait en contradiction, et c'est là où je voudrais vous entendre, en contradiction avec le discours social que vous avez sur la protection des plus vulnérables.
Je ne pense pas que ce soit en contradiction en réalité. Moi, ce que je souhaite de toutes mes forces, et d'ailleurs c'est ce que la France et certains pays d'Europe ont fait pendant des décennies, c'est s'assurer que, par exemple, si on prend cet exemple-là, le continent africain puisse se développer. C'est la meilleure garantie, à la fois pour ces populations qui, d'ailleurs, ne souhaitent qu'une chose, c'est pouvoir vivre dignement dans leur propre pays. Et vous savez, ce n'est pas un sujet ou un autre. C'est les deux sujets en même temps. On a passé tellement de temps à gérer des frontières qui n'existent plus, à avoir ces débats que vous évoquiez sur le fait de dire il faut fermer les frontières alors qu'on n'a même plus de frontières, qu'on a oublié les autres sujets aussi, qui sont notamment les questions de développement avec ces pays.
Mais là, on est sur le même genre de réponse que par rapport à la question de Léa. C'est-à-dire que oui, en attendant que la justice soit parfaite, en attendant qu'on ait aidé le continent africain à...
Ce qui est pareil, un peu fait, colonialiste qu'on fait... comme perception des choses.
Ah non, c'est pas du tout.
Qu'est-ce qu'on fait?
Non,
vous faites... Votre parcours politique part de choses très concrètes et d'une situation d'élu local. Par rapport à ces questions-là, par rapport aux gens qui sont déjà là, qu'est-ce qu'on fait?
Les gens qui sont déjà là, on en accueille beaucoup déjà. Vous le voyez bien. Mais vraiment, je ne veux pas...
Dans quelles conditions?
Oui, mais je suis d'accord avec vous dans quelles conditions. Et d'ailleurs, vous savez, on peut s'acheter toutes les bonnes consciences du monde. Quand je vois aujourd'hui les conditions dans lesquelles on accueille ces populations... Je pense que personne ne peut en être satisfait. Vous savez, moi, je vois beaucoup de responsables politiques aujourd'hui qui disent il faut continuer à accueillir. Est-ce que ça les préoccupe de voir les bidonvilles dans lesquels on les met? Et je pense que ça, c'est un sujet qu'on doit poser. Vraiment, je veux vous dire que vous avez peut-être le sentiment que je me défausse, mais ce n'est pas ça. Sur tous ces sujets, je veux qu'on traite tout en même temps. Non, ce n'est pas colonialiste de dire au continent africain, nous allons travailler avec vous pour votre développement. Ce n'est pas du tout colonialiste. Ce qui est colonialiste et ce qui est irresponsable, c'est le fait que depuis quelques années, la France se soit totalement retirée de ses territoires en disant, maintenant, vous vous démerdez.
Nos intérêts économiques sont bien défendus.
Oui, là où certaines entreprises y ont encore des intérêts. Quant à la France elle-même, on y fait beaucoup moins. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe en Syrie et en Turquie.
On en a parlé tout à l'heure, oui.
On oublie presque que la communauté internationale a abandonné ses territoires depuis des années. Que, en l'occurrence, c'est Bachar al-Assad qui commande l'essentiel de ses territoires, qui les bombarde et qui aujourd'hui prétend venir les sauver.
Il y a la Russie qui les investit aussi depuis un paquet de temps.
Bien sûr, mais ce sont des politiques internationales qu'on a abandonnées. Et vous verrez notamment en Syrie que la conséquence de tout cela, ce sera, parce qu'on n'est pas intervenu notamment immédiatement après le séisme, ce sera des déplacements de population.
Donc la droite que vous défendez, elle sera en faveur, par exemple, d'un investissement de la France très fort dans les fonds d'adaptation au changement climatique, dans un renforcement du système de droit d'asile.
Mais il faut l'être beaucoup plus précisément, notamment sur cette question de l'eau. Enfin, j'insiste beaucoup, mais parce que c'est un sujet absolument stratégique dont on ne parle que trop peu et qui est sûrement le sujet environnemental de premier plan, sur lesquels en plus on a de vraies capacités d'innovation parce qu'on a de grandes entreprises françaises qui savent faire de l'accès à l'eau, notamment dans les territoires compliqués, je pense au continent africain. L'eau, c'est un magnifique combat. En plus, c'est un combat qui parle d'un bien commun.
Que vous avez en commun avec un certain Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs.
Oui, c'est pas seulement.
Ou alors c'est Jean-Luc Mélenchon qui l'a en commun avec Aurélien Pradier.
Je ne sais pas. Ce qui est le plus embêtant pour l'un ou pour l'autre.
J'ai une dernière question pour vous, Aurélien Pradier. Vous avez une particularité à droite, quand même, qui est intéressante. Vous ne devez rien à personne. Vous n'êtes pas l'enfant d'un baron particulier. Je dis ça parce que votre carrière politique au niveau local, vous l'avez construit tout seul, en prenant votre bagnole. C'était une 4L, en l'occurrence. Vous avez fait le tour du département. Vous avez poncé votre circo, comme on dit, pour aller rencontrer des électeurs. Vous avez arraché une circonscription à la gauche et vous êtes arrivé à Paris avec une différence avec beaucoup d'autres élus dans votre camp, c'est que vous ne devez pas votre poste, votre investiture, votre place à un grand baron national qui, localement, fait les carrières et les défaits comme il veut. C'est une posture particulière dans ce camp politique-là.
Je ne suis pas le seul, mais moi, je dois tout aux Lotois, en fait, qui m'ont fait confiance à 21 ans, avec ma mobilette, quand je suis allé faire le tour des maisons et puis ensuite en 4L. Donc je leur dois tout au Lotois. Moi, je suis un gamin de la République, c'est-à-dire que rien ne me prédestinait à être devant vous aujourd'hui, à être député, à batailler comme je bataille, à tenir tête à Elisabeth Borne.
Je vais même plus loin que vous, c'est-à-dire que si à 36 ans vous pouvez vous déclarer candidat à la tête du parti, si vous pouvez presque seul contre tous dire que vous n'êtes pas d'accord avec la décision du parti, emmerder le gouvernement sur les carrières longues, etc., c'est parce que personne ne peut vous dire de la fermer.
Certains essayent, je vous assure que c'est...
Oui, et on les embrasse d'ailleurs, mais...
Oui, moi je les embrasse beaucoup, je leur envoie beaucoup d'amour.
Non, mais on peut le dire, c'est aussi du côté du palais du Luxembourg, Gérard Larcher, Bruno Retailleau, qui vous ont même menacé de vous virer du parti.
Il n'y a qu'une carrière que j'ai grillée depuis 2 semaines, c'est la carrière de sénateur. Je peux être absolument sûr que... Il y a peu de chances que je devienne
dans votre plan.
Non,
il
y a peu de chances que je devienne sénateur. Non, en fait, il y a des avantages et des inconvénients à être libre. L'avantage, c'est qu'en effet, je peux garder cette liberté. Bon, il y a aussi quelques inconvénients à la liberté. C'est que vous prenez vos risques vous-même. Vous n'avez personne pour vous protéger. J'ai rencontré dans mon parcours des femmes et des hommes politiques qui m'ont accompagné. Vous voyez, Christian Jacob en a fait partie. Bon, maintenant, c'est à moi de voler de mes propres ailes et puis de savoir ce que je veux faire de tout ça en n'oubliant pas d'où je viens.
Bon, je ne sais pas ce qu'on vous souhaite. En tout cas, à très court terme, on vous souhaite qu'Elisabeth Borne, effectivement, vous annonce peut-être ce soir, peut-être demain, une bonne nouvelle sur les carrières longues. Ce qui montrera
je suis sûr que vous allez
voilà.
me porter chance. Et porter chance aux Français.
Je n'en sais rien. Merci Aurélien Merci Pradier d'être venu sur le plateau de Bastille. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, donc Aurélien Pradier. Qui nous quitte, Aurélien Pradier qui nous quitte puisqu'il retourne là, maintenant tout de suite dans l'hémicycle pour la suite des débats sur la réforme des retraites. J'espère que vous avez un peu mieux cerné le personnage et ses particularités dans son propre camp.
Ah bah ouais, du coup j'ai compris pourquoi il était de droite finalement.
Quoi, t'avais des doutes avant, c'est ça?
Bah écoute, en début d'émission, oui, on aurait pu se poser la question, c'est vrai qu'il y a quand même...
Au début sur les carrières longues, oui.
Ouais,
c'était du Laurent Berger dans
le contexte. Oui, voilà, oui, Laurent Berger, qui est de droite peut-être un peu aussi, mais... mais bon, après, à la fin, on a compris pourquoi était de droite, quoi.
Non, je sais pas. C'est profil intéressant.
Ouais, moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on n'a plus du tout l'habitude aussi d'entendre cette droite-là. La droite qui a complètement, justement, avalé le libéralisme, on sait où elle est. Et puis, la droite qui vire à l'extrême droite, on la connaît aussi.
Oui.
Mais la droite... qui est dans l'héritage de Gaulle, dans une espèce de vision du rôle de l'État, de la régulation. Alors ça reste
ouais.
la droite, effectivement. On a compris.
C'est du catholicisme
sur quel
social.
Point,
mais il a même espace c'est... politique dans cette dans cette droite-là. Il n'y a pas d'espace politique pour lui en ce moment.
Oui.
Et c'est une bonne question.
Bertrand,
que, évidemment, moi,
et on aurait pu lui poser la question.
J'avais
pareil,
un milliard de questions. Moi, j'avais encore plein de questions.
Et tout, et...
Là-dessus, notamment sur Éric Ciotti et ce à quoi il joue en ce moment. J'avais des questions, évidemment, sur le cordon sanitaire. Moi, quand j'entends parler de Chirac, ça m'intéresse vachement de poser la question de savoir. Ouais. Et la lutte contre l'antisémitisme, c'est toujours, c'est toujours une priorité.
Et puis, la campagne de Valérie Pécresse qui parle de grand remplacement quand même dans un de ses discours. Donc, comment vous revendiquez du cordon sanitaire encore à ce moment-là?
Non, mais j'arrive pas à savoir à quel point soit il est complètement tout seul dans un parti qui, depuis très, très longtemps, a lâché la rampe et effectivement est parti ailleurs, ou alors est-ce qu'à l'inverse, il est à l'aune d'un retour de cette droite-là qui a peut-être un espace demain? J'en sais rien.
Parce que dans un peu de politique fiction, en fait, dans les années à venir, on va vivre l'après Macron, dans le sens.
Ouais, c'est ça, sur les ruines
donc,
du macronisme.
Donc en fait, sur les ruines du macronisme, est-ce que cette droite. J'ai du mal à mettre le mot social dedans vraiment, mais cette droite sociale, est-ce qu'elle a un espace qui se reconstruit quoi?
Bon, à suivre
en tout cas.
On pensait
que c'était celle d'Emmanuel Macron.
Bah, Xavier Bertrand était censé incarner cette frange-là.
Ouais, c'est vrai, on marque.
D'ailleurs, il a soutenu Aurélien Pradier pour la primaire des. DLR pour la présidence.
Ouais, absolument. Non, mais c'est vrai, t'as raison sur
mais bon,
Xavier Bertrand
est...
et son opposition franche au Rassemblement National par rapport à un Ciotti qui était plus ambigu. Non, mais c'est vrai. Bon, intéressant à suivre en tout cas les évolutions de cette droite-là à l'avenir. C'était trop cool. Je vous propose que, alors du coup, bon, il va pas pouvoir y jouer avec nous parce qu'il est de retour dans l'hémicycle, soi-disant, il a plus
pour
important
la bonne
à
cause.
Faire.
Bah, il peut peut-être jouer à distance dans le chat.
Ouais, c'est ça. Dans son taxi.
Il a repris du stop sur les mots croisés aujourd'hui. Parce
vrai.
Que Dussol jouait aux mots croisés pendant
ah bon
le...
dans
oui,
l'hémicycle.
Pendant...
Ouais.
Dans l'hémicycle. Mmh. Donc s'il commence à jouer avec nous sur Backseat, je pense qu'il va...
Non mais en vrai, il me l'a dit, Antoine, il m'a dit franchement, ça la fout mal si je suis sur Twitch en train de jouer au quiz à la con pendant que mes collègues, machin, ils vont m'engueuler, ils auront raison.
Ça passe moyen.
Chers amis, je vous propose qu'on passe au quiz à la con. C'est parti pour le quiz à la con, let's go.
Et je m'incruse.
Et du coup, il y a Adèle qui voulait jouer et qui...
Salut
du coup,
Aurélien.
Vient jouer.
Oui, je ne suis pas
Aurélien. Aurélien.
Alors, le quiz à la con, chers amis, comme chaque semaine, c'est assez simple. Des questions, quatre propositions de réponses. Vous votez dans le chat A, B, C ou D selon ce que vous estimez être la bonne réponse. Vous écrivez pas votre réponse dans le chat. Vous votez en... Enfin, vous répondez au sondage qui va être fait dans le chat en cliquant sur la bonne réponse. Les filles, vous connaissez le concept.
J'ai rien compris.
Arrête, c'est
peut-être pour ça que je perds à chaque fois, j'ai pas compris les règles.
Alors, c'est évidemment un quiz à la con spécial Saint-Valentin. Bien entendu, mais oui,
super.
Bien sûr. Alors,
j'ai peur.
Première question de ce quiz à la con. Quel fut le premier amour de Magda Goebbels, la femme du ministre de la propagande nazie?
Le premier amour.
Son premier amour. Ou son premier amour.
T'as vraiment dit t'amour.
J'ai vraiment dit le premier
t'amour. Oui, t'as dit t'amour et c'est plutôt mignon.
Le
ça pourrait être
amour,
un instrument.
Oh, c'est choumi.
Ou un petit animal, un tameau.
Donc, celle qui deviendra plus tard la femme de Goebbels, Magda Goebbels, c'est chez qui son premier amour? Réponse A, un jeune peintre nommé Adolf Hitler.
Oh, on n'a pas, les bonnes réponses qui s'affichent. Ouais.
Réponse B, qu'est-ce qui se passe?
Le quiz l'est cassé.
Ah, ils sont trompés dans la régie, dans le
J'ai
quiz.
J'ai l'impression que vous avez déjà trompé... vu ces
Ah là là, vous
ces
êtes trompé de
A, B, C, D.
Bah là, je pense qu'ils sont en panique alors qu'il est. Ils attendent de nous qu'on meuble. Je pense qu'ils attendent de nous.
Est-ce que toi, tu les as, les questions?
Moi, je les ai. Du coup, je rigole.
C'est surtout qu'ils vont être virés, quoi. C'est ça qui est con.
Donc, réponse A, un peintre nommé Adolf Hitler. Réponse B, Haïm Arlozorov, un dirigeant de l'agence juive.
Oh.
Pierre Brossolette, futur grand résistant français. Ou Magdalena Beresdorf, une icône du cabaret à Berlin.
Du quoi? Donc Magda, ça serait tapé Magdalena,
c'est ouais.
ça le
cabaret.
Okay. Parmi ces quatre propositions de réponse, il y en a une qui est vraie. Parmi ces quatre propositions, qui fut le premier amour de Magda Goebbels, celle qui du coup a été finalement la femme du ministre de la propagande nazie? Réponse A, Adolf Hitler. Réponse B, le dirigeant de l'agence juive. Réponse C, Pierre Brossolette, le futur grand résistant français. Ou réponse D, une icône de cabaret à Berlin.
La 4. Une icône
de cabaret,
c'est trop beau,
une romance histoire. Lesbienne.
Ouais.
Avant
c'est mieux que la A, clairement.
Oui.
Pas se mentir.
Je sais pas. Non, il était à Vienne. Est-ce qu'elle aurait pu se le taper? J'en sais rien. Je sais pas.
Moi, je pense que c'est ça, mais.
Ah ouais.
Bah.
Tu penses que c'est Lux d'Adolphe qui. Je sais pas. Ah, c'est bon. On a les bonnes réponses. Merci, la régie. Vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup.
C'est vrai que je suis comme Claire, j'ai envie d'y voir un peu de magie, mais j'ai vraiment du mal. Hein,
on ne sait pas, donc on fait des paris sur la beauté de l'histoire.
Ouais, c'est compliqué de trouver de l'amour, même dans les pires âmes du monde.
Là, c'est très compliqué.
Là, c'est
ouais.
très, très dur, je suis d'accord avec toi. Adèle, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je vais répondre la réponse B.
Haïm Arlozorov.
Parce que t'arrives pas à le prononcer et que c'est assez drôle déjà.
Je sais pas du tout.
Et qu'ensuite, ça serait
Sacha,
du coup.
Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je vais suivre Adèle. Juive,
mais... Tu suis Adèle? C'est quand même chaud. Hein. Je veux dire, si ton amour de jeunesse était
ironique.
Président de l'agence juive, le dirigeant de l'agence juive, et qu'ensuite tu sors avec Goebbels, tu te maries et tu fais ta vie avec Goebbels.
Tragique.
On fait des erreurs parfois dans sa vie, faut bien le dire.
Oui. Parfois des erreurs de vieillesse, du coup. Claire, t'en penses quoi?
Moi, je reste sur la D. Hein.
Toi, tu restes sur la réponse D. Magdalena, j'ai envie d'y croire aussi, c'est vrai. Léa, t'en penses quoi?
Je vais dire la C.
Tu dis réponse C. Pierre Brossolette.
Ouais.
Je connais pas sa biographie. Qu'est-ce
moi non plus, donc pourquoi pas.
Ils auraient pu se rencontrer, très bien.
Idée, quoi.
Le chat a voté réponse B majoritairement. Eh bien, c'est la bonne réponse, bravo.
Oh.
Bravo Adèle et bravo Sacha.
Le chat et le public,
effectivement. Effectivement, c'était bien son premier amour. Elle était même assez dévouée à la cause sioniste. Elle a appris l'hébreu. Elle a même porté l'étoile de David que Victor Arlozorov lui a offerte. Mais leur chemin se sépare et comme beaucoup d'entre nous, elle va trouver plus tard un mec un peu opposé à son ex.
Toxic boy.
Parfois, c'est quand même. Ah oui.
Là, elle est...
C'est un peu grave, ça va loin quand même.
C'est plus un grand écart là.
C'est quand même assez loin d'aller chercher Goebbels, voilà.
Ouais.
Mais elle a appris l'hébreu et elle a défendu la cause sioniste, elle a porté l'étoile jaune en solidarité et tout. Non, c'est
ouais, mais je pense en fait on se rend pas compte aussi à quel point c'était mainstream en fait. C'est devenu une idéologie dominante dans une société.
Et pour ça, c'est très intéressant de lire les formidables travaux de Johan Chapoutot et de.
Totalement.
Merde. Ouais. Le deuxième, comment il s'appelle?
T'as voulu briller en soirée, s'il vous plaît.
Non,
je connais.
C'est la fin de Backseat. Johan Chapoutot, l'historien, et son camarade avec qui ils font souvent des trucs ensemble. Et effectivement, ils ont écrit tout un bouquin sur la société nazie et sur le fait qu'effectivement.
Jules d'Ingrao.
Christian Ingrao, le chat, évidemment, le meilleur. Christian Ingrao, toutes mes excuses. Et donc voilà, et donc effectivement, ils ont écrit des livres fascinants qui décrivent le fait que dans la bonne société allemande, c'était parfaitement normal d'être nazi. C'était même plutôt très bien vu. Alors, deuxième question de ce quiz à la con. Complétez cette phrase de Bernadette Chirac à propos de son mari. Deux points, ouvrez les guillemets. Jacques m'a beaucoup trompé. Les connais toutes. Mais il n'y en a que trois à qui j'en veux. Et vous savez ce qui me fait plaisir aujourd'hui? Réponse A.
Qu'elles sont mortes.
Elles sont toutes les trois mortes.
Ouais, c'est ça.
Réponse B. Elles sont toutes devenues socialistes. Réponse C. Elles sont aussi laides que moi. Ou réponse D, elles ont toutes flopé sur OnlyFans.
D, évidemment.
Bernadette Chirac.
Moi, j'ai forcément voté B. Hein.
Donc, je répète effectivement la question. Il faut compléter une phrase qu'a vraiment prononcée Bernadette Chirac à propos de son mari. Jacques m'a beaucoup trompé. Je les connais toutes, mais il n'y en a que trois à qui j'en veux. Et vous savez ce qui me fait plaisir aujourd'hui ? Réponse A, elles sont toutes les trois mortes. Réponse B, elles sont toutes devenues socialistes. Réponse C, elles sont aussi laides que moi. Réponse D, elles ont toutes flopé sur OnlyFans.
Moi, je la vois bien se réjouir de la mort des autres.
Ah ouais, moi aussi. Ouais.
Enfin, pardon, ouais, c'est un peu gratuit, mais vraiment, c'est...
Le pire, c'est cool. Le pire, c'est
que ça m'est venu naturellement quand t'as dit la phrase, tu vois. On n'avait pas encore la réponse. Peut-être que j'ai un peu de Bernadette Chirac en moi, mais...
Peut-être. C'est tout ce que je te souhaite, ou
non,
pas.
Non.
Sacha, t'en penses quoi?
Peut-être pas.
C'est un personnage ignoble. Elles sont toutes les trois mortes. Je la vois tellement dire.
Ah ouais, ouais. Personnage ignoble à ce point-là, Bernadette Chirac.
Avec les phrases de son mari, un peu quand même. Je pense qu'elle est un peu cynique.
Non, mais pas facile à vivre, je veux bien.
Rigide, on dit. Rigide.
Voilà, rigide.
Ah, c'est pas évident, ouais.
Elles sont toutes devenues socialistes, c'est assez drôle.
Oui, en fait, c'est marrant.
Elles seraient capables de dire elles sont aussi laides que moi aussi.
Tu sais qu'elle a chômé du mobilier à l'Élysée. Hein.
Bah oui, tu m'étonnes.
C'est au moment où elle s'est. Oui, après qu'il a. En 2007, quand il a quitté l'Élysée, il y a le conservateur des monuments nationaux qui lui a envoyé un courrier qui a évidemment fuité dans le canard enchaîné, lui demandant son concours pour bien l'aider à retrouver quelques bibelots.
Rendez la vestelle.
Sous-entendu, on sait très bien que c'est où qu'il avait. Il y avait des horloges, des trucs Louis XIII et tout, c'était barré avec.
Épouse. Elle est pop-up.
Bon, en même temps qu'elle est restée des années à l'Élysée, bon. Du coup,
il y a beaucoup de cadeaux, donc tu peux pas tous les accumuler. Donc elle a voulu aider, tu vois.
Ah bah elle a vu faire un commun, elle les a spoilés.
Sinon après c'est Marie Kondo quoi.
Qui s'est des poussières derrière.
En fait, Bernadette Chirac, c'est Marie Kondo de la République.
Putain.
Pardon. Je suis contente de ma vanne.
Vos réponses, du coup, vos réponses, en pensez quoi? Elles sont toutes les trois mortes. C'est ta réponse à toi. C'est ta réponse à toi. Claire, t'en penses quoi?
Ah, ça me fait hésiter. Du coup, j'ai envie de vous suivre sur la A.
Bon,
je vais suivre sur la A.
T'as aucune personnalité, Claire. Non. Je déconne. T'as le droit de suivre, y a aucun problème. De toute façon, en plus, tu suis le chat aussi qui visiblement a voté pour la réponse A. Léa ?
Bah ouais, il n'y a pas...
Réponse A aussi. Ouais, tout le monde est d'accord sur la réponse
en fait,
A. Eh bien, c'est la bonne... Non, c'est la mauvaise réponse.
Mais non,
ouais,
on me dit pas
réponse,
que c'est la B.
C'est la réponse C. C'est pas une blague. C'est la journaliste Catherine Ney. C'est la journaliste Catherine Ney qui rapporte ses propos de Bernadette lors d'une conversation qu'elles avaient eue. On n'a pas le nom des trois personnes, mais Catherine Ney dit que cette phrase a vraiment été prononcée par Bernadette Chirac, ce qui montre qu'elle a un sens de l'humour quand même.
Et
c'est marrant, monsieur.
L'autodérision bizarre.
Oui, l'autodérision.
Elles sont
si moches que moi.
Beaucoup d'amour pour elle-même.
C'est un peu dark.
C'est lourd, quoi.
Oh là là.
Ouais,
c'est pas grave. Hein, c'est...
Bon. Troisième question de ce quiz à la con. Lequel de ces partis politiques existe réellement? Réponse A, le parti hongrois du chien à deux queues. Pas le rapport avec la Saint-Valentin. Réponse B, le parti danois du chat à poil ras. Le parti turc de la loutre timide. Ou le parti autrichien du scarabée vengeur.
Waouh. Mais ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin.
Ouais, mais tu sais, Max, parfois, il... Enfin, voilà.
Il n'a pas compris la consigne.
L'amour des
oui,
animaux.
Ça, c'est vrai, Omar.
Ouais,
oui,
non, c'est,
oui non, c'est vrai. Ou parti politique.
Ouais. Lequel de ces partis politiques existe réellement?
Mais genre, c'est un symbole important dans le pays. Et
ah, tu sais, il y a des partis régionalistes sur des cultures régionales sous nos contrées et sous nos latitudes romaines, on n'est pas trop habitués. Mais dans les pays d'Europe du Nord, il y a des partis régionalistes culturellement très ancrés dans des trucs un peu chelous. Des partis de la chasse, des partis de la bière et tout. On en a eu en France, chasse, pêche, nature et tradition.
Ah bah oui, oui.
C'est un espèce de parti de la ruralité un peu particulier.
Ouais, bien sûr, mais tu vois, par exemple, je sais pas, tu vois, si la loutre est vraiment en Turquie, je suis...
Et surtout, est-elle timide?
Ouais. Je verrais mal un parti politique s'auto-désigner comme timide. C'est pas très...
Après, peut-être que c'est une rêve culturelle à une bataille.
Alors que deux queues, finalement, c'est...
En Hongrie,
c'est tout aussi
Hongrie,
étrange, j'ai envie de dire. Ou scarabée,
est-ce que c'est pas une femme hongroise, tu vois, un truc comme ça.
Mais c'est ça, moi j'étais sur cette piste là. Genre, ça a une signification locale qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas la ref.
Est-ce que le chien de queue, c'est pas le en même temps? Tu vois, je sais pas, on cherche, c'est des idées. C'est le macronisme.
Est-ce qu'il les remue les deux en même temps? Et pour la même raison. Non, mais c'est dégueulasse, ça là. Faites des dons, hein. Sacha, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, j'ai une passion pour les loutres, donc juste par passion pour les loutres, je vais répondre là.
Ah, c'est mignon, ouais.
Je suis d'accord avec toi, j'aime les loutres.
C'est là que
le
je me
parti
dis, finalement,
turc de la loutre timide.
Dans un sens, je me dis, c'est peut-être pas plus mal que Pradier soit pas resté.
Et tu voilà. sais que les loutres, c'est des gros violeurs.
Les loutres, non,
c'est enfin, pour c'est
les dauphins, c'est les dauphins non
aussi, ah ouais. c'est vrai.
Les loutres mais aussi. Ouais. Mais attends, les loutres, elles dorment ensemble pour pas se perdre et tout.
Elles se tiennent par la main. Oui, comme mais ça. C'est mignon, mais elles sont pas très sympas avec les autres.
Ah, peut-être que c'est elle est trop timide justement pour.
Extraordinaire cette émission. Merci toutes les équipes de prod, évidemment, à la technique qui rendent possible ce moment génial. D'accord, donc ok.
Ouais.
Bah écoute, c'est une information. Fort bien. Vos réponses du coup.
J'aurais plus jamais le droit de remplacer l'invité qui part.
Oh là là, il y a quelqu'un dans le chat qui dit même que les loutres, c'est des nécrophiles.
Mais les dauphins alors... aussi.
Je propose
ah non, les pingouins, les pingouins, c'est les pires.
Il faut qu'on sérieux, il y avait, un, il y avait eu un, il y avait eu un article.
Je vais me faire ban tweet avec vos conneries. Fermez-la au bout d'un moment.
De la vie sexuelle et... des pingouins, c'est un enfer.
Voilà, je te propose qu'on n'en parle plus. Voilà.
Escalade.
Vous allez me donner vos réponses et puis on va passer à la question suivante. Sacha.
Bah, le chat à poil ras, du coup.
Le chat à poil ras, formidable. Merci Sacha. Je ne te demande pas pourquoi je ne veux pas savoir. Claire.
La A, parce que j'aimais bien l'idée du macronisme hongrois avec le chien à deux queues.
Le chien à deux queues, très bien. Léa.
Ouais, j'aime bien le chien à deux queues aussi. Enfin, le parti hongrois du chien à deux queues. Voilà,
j'essaie de garder tout mon sérieux. Adèle.
Réponse A.
Réponse A également, le parti hongrois du chien à deux queues. Le chat a voté quoi? Merde, j'ai pas vu la réponse du chat, excusez-moi.
Le chat est perdu là. Le chat ne sait même plus de quoi on parle.
Il a voté réponse A aussi. Eh bien, c'est la bonne réponse. Bravo à tous et bravo au chat. Effectivement. Ouais. Le parti hongrois du chien à deux queues a pour but de se moquer de l'élite politique. En fait, c'est un parti anticorruption. Les autres promesses du parti incluent une semaine de travail, deux couchers de soleil par jour, de la bière gratuite, des impôts bas, la vie éternelle et la paix mondiale.
C'est pas du tout le macronisme en fait. Parce que de la bière gratuite, c'est possible, la vie éternelle, donc du coup en Hongrie aussi, c'est ça le.
Et bah oui, après deux couchers de soleil par jour, tu vois, voilà. Le parti a été fondé dans les années 2000 et il existe toujours aujourd'hui, donc ça fait partie de ces partis qui existent pour se moquer de l'élite politique et plutôt anti-corruption. Ce qui en Hongrie n'est pas une mince affaire. Quatrième question de ce quiz à la con. Qu'a décidé Claude Pompidou, la femme de Georges, pour l'enterrement de son mari? Réponse A, elle a refusé que les ministres assistent à l'enterrement. Réponse B, elle a refusé qu'on dépose des fleurs, car Georges en avait horreur et préférait des dessins de fleurs plutôt que des fleurs. Elle a refusé la Marseillaise et préfère un air de Debussy, son compositeur préféré. Ou réponse D, elle a organisé un grand loup-garou, elle trouvait que le décor s'y prêtait.
J'avoue.
Georges Pompidou est mort. Oui, pardon pour ceux qui apprennent la nouvelle ce soir. Oui, Georges Pompidou.
Si quelqu'un peut mettre à jour sa page aussi.
Prévenez Twitter. Hein. Georges Pompidou est mort.
Ah, ça va sortir ça.
De quoi?
Il va y avoir une dépêche AFP.
Ah bah ouais, dépêche AFP. Reprise Georges Pompidou est mort. Ah oui.
Pompidou est mort.
Du
voilà.
Coup, présidentiel et élection de Giscard, t'imagines? Ah non.
Du coup, c'est Gérard.
Et vous êtes convié à un grand jeu de loup-garou.
Exactement.
Du coup, Gérard Larcher prend l'intérim de quoi?
Prend l'intérim. Super. Yes.
Voilà, alors qu'est-ce qu'elle a décidé, la femme de Georges Pompidou, pour son enterrement? L'enterrement de Georges Pompidou. Elle a refusé que les ministres assistent. Elle a refusé qu'on dépose des fleurs parce qu'il avait horreur de ça. Elle a refusé la Marseillaise, elle a préféré Debussy.
C'est classe de refuser la Marseillaise.
Ah ouais, c'est moi j'en peux.
Ouais, enfin, Georges Pompidou quand même.
Ouais, mais il y a. C'est un peu de panache, tu vois, surtout pour mettre son compositeur préféré et tout. Moi, j'aime bien.
Ouais, en plus, Debussy, c'est pas désagréable.
Mais ce que je trouve troublant, c'est quand même que t'as précisé, elle refuse les fleurs parce que Georges en avait horreur, il préférait des dessins de fleurs. C'est quand même très, très pointu.
Bah, tu sais, c'était un... Il aimait l'art, quoi.
Oui, mais...
C'était un esthète.
Ceci dit, il n'aimait pas trop l'art figuratif. Donc, les dessins de fleurs.
Non, mais il était là, genre.
Mais c'est vrai.
Vincent, dépose tes tournesols sur la tombe de Georges. Pas de problème.
Mais pas des vrais tournesols.
Non, je sais pas. Le chat a voté quoi? Il est encore en train de voter. Vos réponses.
Moi, je dirais la A, parce que je comprendrais qu'en ce moment comme ça, il y a une envie de. Pas de ministre, pas de. Trop de politique, de trucs qu'on pris de la place
d'accord.
pendant toute leur vie à eux deux.
Donc réponse A, pas de ministre à l'enterrement de Georges Pompidou. Usul répond réponse C, je le vois dans le chat. Usul, on t'embrasse.
Moi je vais suivre Usul du coup.
Évidemment.
J'avoue, ouais.
Donc tu dis réponse C, pas de Marseillaise, Debussy.
Moi j'aurais fait ça parce que.
Pas de Marseillaise, Debussy, réponse C pour
les. Bon,
Léa
je ne suis pas Claude Pompidou. Hein.
Non, j'avais
deuxième info fondamentale
avant la réponse du Jules, quand même, je tiens à le préciser.
Et, okay, et De Gaulle est mort aussi.
Oui,
pour le chat.
De Gaulle est mort. Non.
On apprend beaucoup. Voilà, juste pour
la merde. Quelqu'un a balancé ça dans le chat.
Tu veux dire que le vieux monde est derrière nous.
Oh là là.
Adèle, ta réponse.
Moi, je reste sur les fleurs.
Toi, tu restes sur les fleurs. C'est beau. Le chat a voté quoi? Réponse C, lui aussi. Le chat a suivi Jules. Ok, très
Jules
bien.
A dit qu'il avait répondu au pif.
Parce que tu crois que d'habitude, il répond pas au pif.
Ah non.
Eh, oh. Et bah, la bonne réponse, chers amis, c'était la réponse A.
Ouais.
Oh la vache.
Et oui, c'était la réponse A. Ouais. Georges Pompidou est mort le 2 avril 1974. Classe. Sa femme refuse que les ministres assistent à son enterrement. Elle déclara « La politique m'a pris mon mari. Je ne veux pas partager mon deuil. »
Oh. Attends, elle l'a obtenu.
Je trouve que ça a du panache.
Et elle l'a obtenu.
Bah oui.
Bah oui,
du coup, il y avait des fleurs.
Alors, je pense que tu sais, quand on
parle et la Marseillaise.
Quand on parle d'enterrement pour un chef d'État, il y a la cérémonie officielle aux Invalides. Évidemment, là, tu peux pas empêcher qu'il y ait toute la garde nationale et évidemment les députés et tout le Gotha parisien. Oui, en revanche, vrai. La partie peut-être un peu plus personnelle, machin. Là aussi, normalement, il y a les ministres, les proches politiques. Mais je trouve la phrase a du panache. Mm-hmm. Tu l'imagines en deuil et qui dit la politique m'a pris mon mari. Il est hors de question que je partage mon deuil avec tous ces gens-là. Enfin, je comprends bien l'idée. On apprend ça dans le documentaire de Pierre Hurel qui s'appelle Claude et Georges Pompidou.
Bon, en même temps, elle a dû en profiter un peu de ces gens-là et de la politique et du fait d'avoir
moi,
été.
Moi, je suis pas dans les couples.
La première
je sais
dame.
Il y en a qui s'appelaient
pas. Excuse-moi, Claude, mais va falloir revenir avec ton argument éclaté au sol.
T'es revenu une première dame.
Elle aussi, elle est partie avec des bibelots.
Non, mais vraiment, quoi. Bah, du coup, tu regarderas le documentaire Claude et Georges Pompidou
non, merci.
De Pierre Hurel. Ça a l'air d'être un documentaire qui peut-être dit des choses. Non, voilà. J'en sais rien.
Il était très joyeux ce quiz de la Saint-Valentin.
C'est vraiment. Oui, t'es arrivé toute guillerette et tout. On arrive à la fin du quiz à la con. Chers amis, on va conclure cette émission. J'espère que ça vous a plu. C'était chouette ce soir. J'étais content de cette émission un peu particulière. Bon, en même temps, non, on a parlé des retraites. On a reçu une personnalité politique de premier plan. Non, c'était vachement bien comme émission.
C'était génial.
Ça t'a plu? Non, vraiment?
Écoute,
cool.
Vraiment, ouais, ça m'a bien plu. Le quiz à la con, bon, je comprends toujours pas la question sur le parti du chien à deux queues, mais bon, ça c'est par rapport à Saint-Valentin. Mais non, chouette, bah, le public est fabuleux, hein, vous êtes magnifiques.
Vous
et
êtes
ça,
jamais assez, quoi.
Vraiment.
Bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis très content qu'on ait reçu Jean-Laurent Castelli pour parler de la France moche, un sujet un peu à côté de l'actualité politique, mais c'est aussi ça qu'on voulait faire sur Backseat. Pardon, c'est de se donner la possibilité d'explorer des trucs qui sont liés à l'actu indirectement pour parler de ça. Donc c'est l'occasion de parler de cette France périphérique qui est un chouïa plus compliqué que ça. Et je trouve qu'il en a
j'ai
très bien.
J'ai toujours pas compris la définition, mais bon, ça c'est.
Je chercherai. Tu liras son bouquin.
Exactement.
Bah, du coup, la beauté des sciences sociales, c'est que t'as pas une définition nette et figée, mais là, toujours c'était des débats politiques sur comment on définit les choses. Et c'est ça qui est très
voilà.
Juste.
Il y a eu Jules qui dit qu'elle démago cette Léa, il a pas tort.
Merci Jules.
Le before de Backseat, on a eu une discussion du coup avec les ONG pour parler de la mobilisation suite au terrible tremblement de terre en Syrie, en Turquie. J'ai eu information pendant l'émission que Hélène, qui était avec nous depuis la Pologne, nous a fait savoir qu'elle avait reçu beaucoup de dons suite à son passage sur Backseat.
Ah génial,
merci. Trop bien.
Vous êtes extraordinaire, c'est vraiment super cool. Du coup, c'est très déplacé de parler des dons pour Backseat dans la foulée de ça, donc je vais pas le faire. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux respectifs. Sacha, on te retrouve dans le JDD. Claire, on te retrouve...
Toujours à la bibliothèque.
À la bibliothèque, pour
laquelle
continuer ta thèse. Léa, on te retrouve avec Popol, ton
ouais.
Podcast.
Et demain, sur C'est encore nous, sur France Inter.
Ah, tu seras ouais. Sur Inter demain okay, ouais. D'accord, c'est à quelle heure?
À 17h.
À 17h, ok.
Trop bien.
On va bien se marrer.
Adèle
Moi, sur les réseaux sociaux et dans des caves humides. Et
Tu fais du stand-up, je précise tout de suite. Pour ceux qui pensaient que c'était amatrice de cigares, non.
Bien sûr. La semaine prochaine, je participe à un plateau de comédie à l'Académie du Climat. Le 24 février.
De la mairie de Paris, donc, là.
Ouais, venez, c'est assez cool. C'est très chouette comme endroit.
Ah, mais en plus, je serais peut-être là parce que. Enfin, bref, oui.
Bref,
on verra. C'est la fin de cette émission. Demain, on se retrouve en direct pour suivre les dernières heures de du débat sur la réforme des retraites, je pense. Je vais voir, je suis pas sûr de pouvoir streamer. On verra. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. C'est la fin de Backseat. Ciao tout le monde, bye bye. Au revoir.